Vous êtes sur RTL.
Des petits matins, à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle, le ministre de l'économie Bruno Le Maire est donc l'invité de notre matinale sur RTL. Il répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40, le prix des carburants, les salaires, le nucléaire, les retraites. Autant vous dire que la liste est conséquente et vous pourrez vous aussi interroger le ministre dès 8h20. Vous connaissez le processus, le 32-10 pour le standard et le dialogue direct avec le ministre et le 64-900 code matin pour les questions SMS. N'hésitez pas à venir dialoguer avec Bruno Le Maire. Au rayon concurrence, nous recevons à 7h15 le directeur général d'Amazon France. Il pourrait être taxé sur les livres par une loi en cours de débat. Le but est de protéger nos libraires. Pour faire simple, le livre de poche à 6 euros en boutique vous coûterait 9 euros chez Amazon. Quelle riposte prépare-t-il? Je lui poserai la question. Et puis pour affronter une météo qui n'est pas toujours facile, je vous promets ce matin un délicieux gratin de pâtes signé Cyril Lignac. Ce sera juste avant 9h. Nous sommes le mercredi 6 octobre 2021. Très bonne journée sur RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'Église de France doit changer. Le choc est immense au lendemain de la remise de ce rapport sur la pédophilie.
330 000 enfants victimes depuis les années 50 et la conviction de l'archevêque de Strasbourg qu'on entend dans un instant. Si nous minimisons ce rapport, dit-il, l'Église n'a plus d'avenir en France. Les dealers marseillais sans limite et prêts à tout pour protéger leurs affaires. RTL est retourné dans ce quartier où des policiers de la BAC Nord ont été visés dimanche par des tirs. Probablement à la Kalachnikov. Dans ce journal également, Anne Hidalgo qui veut baisser la taxe sur les carburants. Changement de cap plutôt étonnant pour celle qui a une image anti-voiture.
Et ce sera l'objet de votre rendez-vous, Olivier Bost.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'Anne Hidalgo ait déjà un besoin urgent de relancer sa candidature.
Lui, il les aime, les voitures, si possible rapides et rutilantes. James Bond arrive dans les salles en France. RTL a suivi hier soir une avant-première.
RTL Matin.
Plus rien ne doit être comme avant. Le choc a été brutal hier pour le pays et pour l'Église de France. 330 000 enfants victimes de pédophilie au sein des institutions gérées par les religieux depuis les années 50. Un système mis en place pour préserver la loi du silence, dit le rapport. Le pape lui-même a exprimé son immense chagrin, mais les mots ne suffiront pas. L'archevêque de Strasbourg a été très clair hier. Ça a été l'une des paroles les plus fortes qu'on ait entendues. Si nous minimisons ce rapport, l'Église, dit-il, n'a plus d'avenir en France. Voilà la conviction d'un homme, Yannick Collant, qui est pourtant l'un des plus engagés pour combattre ce fléau.
Le choc est d'autant plus rude pour Mgr Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, que jusqu'à hier, il pensait que le travail accompli dans son diocèse avait permis d'identifier une bonne partie des victimes d'abus sexuels, 169 dossiers. Finalement, c'est une goutte d'eau.
J'ai été atterré. Nous avions cru faire beaucoup de choses, mais quand je calcule avec ce que nous apporte le rapport de la CIAS aujourd'hui, nous pouvons facilement estimer à 7000 personnes victimes en Alsace.
L'annonce du rapport a d'ailleurs déjà poussé de nouvelles victimes à témoigner.
J'ai reçu déjà 4 autres signalements en 24 heures. Et dès que c'est vraisemblable, je ne dis pas vrai, je fais un signalement au procureur de la République. Je joins aussi le parcours administratif du prêtre pour que la justice puisse enquêter aussi sur tout son parcours et pas seulement sur les faits signalés.
En Alsace, 110 personnes, dont 82 prêtres, ont été mises en cause par les témoignages des victimes. Mgr Ravel l'avoue, il a sans doute été trop naïf, mais il lance un appel à toute l'Église pour ouvrir les yeux, car d'autres évêques lui confient encore récemment qu'ils n'avaient aucun dossier de victime dans leur diocèse.
Merci beaucoup Yannick Collant. Et parmi les 45 mesures évoquées par la Commission, il y a la levée du secret de la confession, jusque-là véritable tabou pour l'Église. Et bien pour la première fois, l'archevêque de Lyon affirme ne pas y être opposé, en tout cas pour les mineurs. On l'entendra tout à l'heure dans le journal de 7h30. Et puis les députés ont adopté à l'unanimité hier soir la loi qui interdit ce qu'on appelle les thérapies de conversion, qui vise à imposer l'hétérosexualité. Rien à guérir, c'est le mot-clé qu'on a vu fleurir ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ce délit pourra être puni de 2 ans de prison, de 3 ans même quand c'est un mineur qui en est victime.
Il est 7h03, on part à Marseille avec encore une fois des dealers prêts à tout pour protéger leurs affaires.
Oui, 8 policiers de la BAC Nord se sont fait tirer dessus, probablement à la Kalachnikov, c'était dimanche dernier. Des tirs pour tuer alors qu'ils étaient sur une intervention assez basique. Le petit muret derrière lequel ils se sont réfugiés a été criblé de balles. Morad Jabari pour RTL a pu retourner dans le quartier de la Bricarde, quartier nord où se sont déroulés ces faits. Il a rencontré Manuel, témoin de la scène.
J'ai entendu un coup de feu. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu un gros... J'ai reculé de la fenêtre. Les coups de feu... Ils ont mis un jour un policier, il a tiré des rafales. Kalachnikov, je connais son bruit. C'est des coups de gros calibre. Et c'est l'emplacement où j'étais avec un collègue, je discutais. Vous vous rendez compte, vous prenez des balles perdues comme ça. Après, il y a eu une intervention de plusieurs fourgons de police, la BRI. Ils ont fait des perquisitions, ils ont découvert des armes, de la drogue. Et il y a 15 jours de ça, pareil, là, au-dessus, deux bandes. Une bande du plan d'Aou, là. Une autre bande ici, ils étaient cagoulés, ils se tiraient entre eux. Souvent, vous entendez des coups de feu, là. Les gens, ils ont plus confiance d'envoyer leurs enfants. Comme là, vous envoyez un de vos enfants, votre fille ou votre garçon, il se fait tirer dessus. Ça peut arriver à une personne comme moi. Vous faites un pas, là, en haut. Vous trouvez des douilles de partout. Ils se tirent entre eux.
Ces policiers de la BAC Nord, donc visés par des tirs probablement à l'arme de guerre. Vous retrouvez le reportage complet de Morad Jabari tout à l'heure dans le journal de 8h. Éric Dupond-Moretti cogne fort sur Éric Zemmour. Le ministre de la Justice l'a qualifié de raciste, de négationniste hier soir chez nos confrères de BFM TV. Il a appelé également les Français à ouvrir les yeux. Et puis Anne Hidalgo, on le disait en titre, veut baisser les taxes sur les carburants. Proposition donc qui étonne pour la candidate socialiste à la présidentielle, plutôt réputée hostile à la voiture, eh bien elle assume, estimant que ça n'est pas au plus modeste de payer la transition écologique. Notez qu'Anne Hidalgo sera sur RTL ce soir à 18h. Elle débattra avec Pierre Chasseret, le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes.
Baisser la taxe sur les carburants, on en parlera avec Bruno Le Maire à 7h40 et à 8h20. Et puis bien entendu, l'éditorial politique d'Olivier Bost dès la fin du journal. Une pause et dans un instant, des entraîneurs étrangers pour booster les performances de nos athlètes. Le haut niveau change de méthode avec l'espoir de briller à Paris dans 3 ans.
RTL Matin.
RTL 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois. Investissement suivi des performances. Le sport français veut faire sa révolution.
Oui, à 1024 jours, très précisément, des Jeux Olympiques de Paris. Comment faire en sorte qu'on ait un peu plus de médailles qu'à Tokyo? L'athlétisme, la natation ont déçu, notamment cet été. Eh bien, l'Agence nationale du sport, avec ses 400 millions de budget, veut bousculer les fédérations et les habitudes. Création donc d'une cellule de la performance. Changement de méthode également. Quitte à faire appel à des entraîneurs étrangers. Jean-Michel Rascol.
Oui, à l'image du Néerlandais appelé au chevet de la natation française ou du Brésilien qui prend la suite de Laurent Tilly chez les volleyeurs, le sport français participe à un mercato inédit. La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu.
Aujourd'hui, le mercato de ces entraîneurs, si on a la possibilité de capter d'autres personnalités étrangères qui ont montré qu'elles savaient faire au niveau international, nous avons les moyens de le faire aujourd'hui, qu'on puisse accélérer là où on a besoin d'accélérer.
Et au moment de booster le sport français, Claude Onesta, le patron de l'Agence nationale du sport, règle au passage quelques comptes.
J'ai entendu David Douillet expliquer partout que tout ça ne servait à rien, que l'agence fait n'importe quoi. Et si lui s'y était pris en temps voulu, peut-être qu'aujourd'hui, on serait en situation plus favorable pour réussir. Et juste oublié qu'en 2011, c'est lui qui était ministre des Sports.
Car le cap fixé par Emmanuel Macron, placer la France au 5e rang mondial dès 2024, paraît irréaliste. Il faudrait un miracle.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol.
Un sommet européen s'est ouvert hier en Slovénie. Emmanuel Macron appelle en substance ses partenaires à moins de naïveté.
Oui, avec en tête l'affaire des sous-marins australiens ou le départ précipité des Américains d'Afghanistan. La France et l'Europe n'ont pu que constater qu'ils n'ont été que très peu pris en compte. Et le président français reste visiblement marqué d'ailleurs par les tensions récentes avec les États-Unis. Bénédicte Tassard.
Oui, Emmanuel Macron reste sur sa faim. La France a-t-elle retrouvé sa place d'allié de l'Amérique ? Nous verrons, répond le chef de l'État hier soir à son arrivée en Slovénie.
Nous verrons. Je crois juste aux actes. J'espère, je pense que c'est faisable. Ce serait plus productif pour nous deux. Mais je verrai, il ne faut pas que des mots, mais des actes sur ce que nous pouvons faire ensemble.
And what to do together. Joe Biden et Emmanuel Macron discuteront au téléphone dans quelques jours avant un entretien en tête-à-tête à la fin du mois. La France attend désormais des propositions pour se voir attribuer un rôle concret dans la zone Indo-Pacifique aux côtés de Washington.
Merci beaucoup Bénédicte Tassard, envoyée spéciale d'RTL en Slovénie. Et puis elle est devenue la loi anti-Amazon, surnommée comme telle en tout cas. Elle doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée. Loi qui consiste à imposer une taxe supplémentaire quand on achète un livre en ligne. Un livre à 6 euros par exemple chez votre libraire coûterait 9 euros en ligne.
Nous y reviendrons en deux temps avec Frédéric Duval, qui est directeur général d'Amazon, dès 7h20, et bien entendu avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ça y est, il arrive dans le cinéma français, le dernier James Bond, dans les cinémas français, le dernier James Bond est à l'affiche.
Mourir peut attendre sort effectivement partout aujourd'hui en France. Le film est très attendu, il a réalisé le meilleur démarrage de toute l'histoire de la saga ces derniers jours en Grande-Bretagne. Et les spectateurs que vous avez croisés hier soir à la sortie d'une avant-première étaient était plutôt enthousiaste, Vincent Serrano.
Et je peux vous dire qu'à la sortie de la salle, en descendant l'escalier à côté de l'écran, Philippe, du haut de ses 58 ans, ne s'est pas privé de mimer avec ses doigts le pistolet de James Bond. J'ai l'impression d'avoir affaire à un enfant.
Et puis, ben, on attend le prochain avec impatience. On était captivés, je crois, par l'histoire et par le film et le personnage, forcément. Daniel Craig, c'est bien, et avec plein de rebondissements et puis surtout plein d'action, quoi. C'est ça qu'on vient rechercher quand on va voir un James Bond.
Florence, vous confirmez ?
Complètement. On est avec lui dans l'écran, je pense. Je suis pas fan de ce genre de film, mais je reconnais une chose, c'est qu'effectivement, c'est spectaculaire. Bon, il pourrait mourir 10 fois, mais il va pas mourir une fois. Puis bon, cette fois, il y avait un peu de sentiment, donc ça fait du bien.
Et puis je me retourne vers votre fille, c'est finalement une histoire de famille.
C'est que mon père m'a souvent dit de regarder les autres, mais bon, j'ai un peu du mal parce que je trouve que ça vieillit pas forcément très bien.
Bon, boudez pas.
Après, mon père est vraiment fan, il les a tous regardés. S'il y a un prochain avec un nouveau James Bond, il ira quand même. Et je pense que du coup, j'irai et moi-même, je l'apprendrai à mes enfants si ça continue comme ça.
Et devinez quoi, ils ont tellement aimé qu'ils vont dès demain revoir le film au cinéma. C'est pas vrai.
Ça promet de belles entrées. Merci beaucoup Vincent Serrano.
On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Angers, Olivier.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 15, le 5, le 7, le 8, le 3 et le 9. La dernière minute, c'est le 5.
Et le journal de 7h vous était proposé par Olivier Bois. 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Anne Hidalgo tente une nouvelle fois de relancer sa candidature pour rester en course, Olivier.
Bah oui, Anne Hidalgo, c'est un plan de relance à elle toute seule. Un plan de relance de sa candidature. À coup de milliards, de dizaines, de centaines de milliards, Anne Hidalgo, c'est une candidature contrariée et qui pour l'instant ne prend absolument pas. Alors la maire de Paris est contrainte de multiplier les annonces choc. La dernière en date est ce matin dans le journal Libération. Mmh. Elle propose de baisser les taxes sur les carburants. La seule façon, selon elle, de faire une écologie sociale. C'est la taxe carbone à l'envers, en quelque sorte. Vous faites des économies lorsque vous faites le plein. Avant cela, je vous le rappelle, Anne Hidalgo avait proposé de multiplier par 2 les salaires des profs. Mmh. Ça, c'est 60 milliards par an. Les taxes sur les carburants, c'est 40 milliards. À ce rythme, nous en sommes donc à 500 milliards sur un quinquennat. Mais au rayon des idées détonantes, il ne faut pas oublier non plus qu'elle voulait baisser la vitesse sur les autoroutes.
Et ça fait moins d'un mois qu'Anne Hidalgo est candidate pourtant.
Oui, alors c'est peu et c'est déjà long. Elle stagne ou elle perd des points dans les intentions de vote, désormais en dessous du niveau de Benoît Hamon. Dernière mesure de référence du poids des socialistes à une élection présidentielle. En dessous de Benoît Hamon, c'est à 5-6%, c'est vous dire s'il y a urgence. À gauche, elle est devancée par Yannick Jadot et par Jean-Luc Mélenchon. D'où cette offensive ce matin dans Libération. Elle attaque le côté bobo des centres-villes, des écolos. Elle se préoccupe de ceux qui ont besoin de prendre leur voiture pour bosser, c'est-à-dire surtout pas les Parisiens. Et avec les profs, elle vise le militant socialiste de base. Cette stratégie est limpide, elle est surtout un sauf qui peut.
Mais Anne Hidalgo est en mauvaise posture à ce point.
Oui, et ses amis socialistes se mettent à redouter le pire. Nous avons un problème majeur, il ne se passe rien, ça ne décolle pas, s'inquiète un responsable du parti. Toute la stratégie était de prendre le dessus sur les autres candidats de gauche. Il en va de l'avenir du PS avant même de parler de second tour. C'est le foutoir, j'ai jamais vu ça, abonde un autre vieil habitué des campagnes présidentielles. L'hypothèse de son abandon, de son retrait de la course, qu'elle réfute ce matin dans Libération, est bien évoqué dans les rangs socialistes comme le pire des scénarios, pas encore inévitable. Anne Hidalgo, qui se voyait batailler contre Emmanuel Macron, a bien d'autres combats à mener en fait pour ce qui ressemble déjà à la survie de sa candidature. Elle doit ôter d'un doute ses amis avant même que la bataille commence.
Merci beaucoup Olivier Bost. Eh bien Anne Hidalgo est l'invitée d'RTL Soir. La maire de Paris, candidate donc à l'élection présidentielle, sera face à Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes à partir de 18h sur RTL avec Julien Cellier. Autre rendez-vous, Bruno Le Maire, vous le savez, le ministre de l'économie répond aux questions d'Alba Ventura dès 7h40 et vous pouvez vous aussi l'interroger sur tous les thèmes que vous souhaitez dès 8h20, l'énergie, les salaires, les retraites, l'épargne. Appelez-nous dès maintenant au 3210 ou par SMS au 64 900. Code matin.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h15, nous sommes le 6 octobre, mais c'est déjà un peu Noël pour la brigade RTL. Le salon des jouets Made in France se tient à partir d'aujourd'hui à Saint-Ouen. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Un secteur en fait en plein essor et vous nous révélez ce matin les tout derniers chiffres.
Plus 10% de ventes par rapport à 2020. Le Made in France progresse 2,5 fois plus vite que le marché du jouet. Désormais, les marques françaises représentent entre 14 et 15% contre 13,4% en 2020. Chiffre du cabinet NPD. BD. Un jouet en bois sur quatre vendu est fabriqué en France. Même succès pour les loisirs créatifs. Une peluche ou un puzzle sur cinq offert est made in France.
Alors, comment explique-t-on ces excellents chiffres?
Comme pour d'autres secteurs, le bio par exemple, on aime de plus en plus acheter local avec des produits de qualité dont on connaît la provenance. Autre raison, la crise du Covid. Coincées chez elles, les familles ont redécouvert l'envie de jouer ensemble, jeux de société, puzzle, activités artistiques, des secteurs où le made in France excelle, alors qu'il est quasi impossible de produire en France des éléments électroniques pour des jouets connectés par exemple.
Et pourtant c'est nettement plus cher de fabriquer en France.
On est d'accord, hein, prenons Macomoulage, la célèbre marque relancée en 2014. L'entrepreneuse a fait ses calculs, si elle avait fabriqué en Asie, la boîte aurait coûté 40% moins cher, mais elle a bien choisi la France, comme Bioviva, Santosphère et une quarantaine d'autres. Pourquoi ? Une qualité irréprochable, plus de rupture de stock, plus de coûts de transport qui flambent. Le prix des containers en provenance de Chine a été multiplié par 10 ces derniers mois. Symbole de cette réussite, la Fabrica Histoire de l'Uni, premier jouet tout secteur confondu en 2020, qui est désormais fabriqué en France, près de Bayonne, après 6 ans de production en Chine.
Ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup Sophie Orange. On retrouve notre brigade RTL dans le journal de 8h. Dans un instant, seriez-vous prêt à payer plus cher vos livres commandés sur Amazon? Une loi en cours de discussion veut faire passer les frais de port pour les commandes passées sur Internet. Nous serons avec le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval. C'est dans quelques instants sur RTL. Bonne journée à tous, il est 7h17.
RTL événement.
Il est 7h19. Bonjour Frédéric Duval.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes le patron d'Amazon France. Nous vous recevons ce matin, puisqu'une proposition de loi pourrait être votée dès aujourd'hui. D'ailleurs, elle vous vise directement, puisqu'elle veut protéger les libraires en augmentant les frais de port des livres vendus sur Internet. Avez-vous évalué le surcoût pour vos clients, le surcoût éventuel si elle devient effective cette loi?
Oui, nous avons évalué. Avant tout, je voudrais dire que cette proposition de loi ne vise pas Amazon, elle vise les Français. Et elle va créer une inégalité entre les Français et elle va affecter sensiblement leur pouvoir d'achat. Je voudrais prendre juste un exemple simple pour que les auditeurs comprennent.
C'était ma question.
Prenons l'exemple d'un livre de poche qui aujourd'hui vaut 6,50€ partout sur le territoire. Un citadin l'achète dans sa librairie, en bas de chez lui, à 6,50€. Une personne dans un milieu rural ou dans une petite ville, cela fait livrer pour 6,50€ plus une livraison à 1 centime. Ce qui fait que les citoyens sont à peu près égalité sur l'acte d'achat de ce livre de poche. Demain, le citadin continuera à acheter son livre 6,50€ dans sa librairie, alors que la personne en milieu rural devra payer 6,50€ plus 4€ de livraison, soit 10,50€, et ce faisant, sera à inégalité face à des populations qui sont plus en ville. Et je pense que c'est important de le signaler. Ça coûtera environ 250 millions d'euros aux Français, soit une atteinte significative à leur pouvoir d'achat.
Donc vous avez fait une projection qui indique un surcoût de 250 millions sur les éventuels achats si la loi est votée.
Oui.
Bon, hormis le modèle d'Amazon qui fait son succès, on a toujours payé les livraisons dans ce pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on ne revient pas d'une certaine façon à la norme?
Mais non, le principe de la loi Lang votée il y a 40 ans est que le livre doit coûter le même prix partout sur le territoire. Or, aujourd'hui, cet objectif, il est réalisé grâce à deux réseaux principaux, celui des libraires en ville et celui de l'Internet en campagne et dans les petites villes. Et c'est le principe même de faire en sorte que l'ensemble des livres soit disponible partout sur le territoire au même prix.
Est-ce que vous comprenez qu'on a aussi besoin de protéger nos libraires?
Mais absolument.
Et que vous leur faites peur, pour dire les choses très simplement.
D'abord, absolument.
Votre modèle est une réussite, personne ne le conteste.
Je suis absolument un supporter des libraires et je pense que les libraires font un boulot extraordinaire de prescription de la nouveauté en centre-ville. Et ils vendent d'ailleurs beaucoup de livres comme ça. Et nous ne faisons pas le même métier, nous sommes complémentaires des libraires. 70% des titres que je vends sont des titres qui ont plus de 2 ans d'existence. Ce sont des titres de fonds de catalogue. Deuxièmement, je vends partout en France. Aujourd'hui, on a 33 000 communes en France, on a 3 300 libraires. Ça fait 90% des communes qui n'ont pas de librairie.
Vous êtes en train de me dire, on va acheter les derniers bouquins sortis chez nos libraires et nous, on est là en quelque sorte en référence bibliothèque, je vous ai bien compris.
Et nous vendons partout sur le territoire. Et enfin, une dernière chose, c'est que nous offrons aux libraires la possibilité de vendre leurs fonds de stock en ligne et de les vendre partout en France. Donc, on ne devrait pas opposer ces deux mondes, on devrait au contraire comprendre quels sont qu'ils sont complémentaires et que nous avons besoin des deux composantes pour diffuser le savoir et le livre en France.
Une toute dernière question, comment comptez-vous contrer cette attaque ciblée ? Parce qu'elle l'est.
Mais je ne vais pas contrer cette attaque. Et vous savez, nous, on applique les lois en France. Je veux signaler le fait qu'aujourd'hui, cette proposition de loi qui va être peut-être votée à l'Assemblée, et je pense que nos députés souhaitent établir l'égalité entre les citoyens et la justice, eh bien, cette proposition de loi, premièrement, impacte le pouvoir d'achat, et deuxièmement, crée une inégalité territoriale.
Vous avez un message à adresser à Bruno Le Maire, vous allez sans doute croiser, puisqu'il est l'invité d'Alba Ventura dans moins de 15 minutes.
Bah écoutez, je saluerai Bruno Le Maire et je lui répéterai ce que je viens de vous dire.
Merci beaucoup Frédéric Duval d'avoir pris la parole sur RTL. Vous mettez en valeur ce matin l'inégalité, nous dites-vous aujourd'hui, des territoires à laquelle répond votre entreprise, notamment dans l'accès aux livres. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci.
On va maintenant s'intéresser à notre pépite musicale.
RTL Matin,
Martin.
Yves Calvi.
Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qu'avons-nous au menu ce matin ?
Alors, puisque le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, sort aujourd'hui en salle, je vous propose d'écouter des chansons qui auraient dû servir de générique au film de la saga, mais qui, bien que commandées, n'ont pas été retenues au final. Dans cette catégorie qu'on pourrait nommer l'aventure James Bond leur est passée sous le nez, on trouve par exemple le groupe Blondie et sa chanteuse Debbie Harry. En 1981, Blondie signe « For your eyes only », rien que pour vos yeux, pour le film du même nom évidemment, mais cette chanson n'a pas été retenue. Your Eyes Only apparaîtra finalement dans l'album du groupe Blondie sorti en 1982. Autre recalé, ah. Alice Cooper. En 1973, le rocker américain s'est fait jeter en bout de course avec ce titre « Man with a Golden Gun » composé pour le James Bond, l'homme au pistolet d'or. Les producteurs ont préféré à Alice Cooper une composition de John Barry interprétée par la chanteuse Lulu. Johnny Cash fait aussi partie des recalés de la saga 007 avec un morceau country pour Opération Tonnerre. C'est Tom Jones qui avait été choisi. Plus récemment, Lana Del Rey pour Spectre. C'est Sam Smith qui l'avait emporté. Mm-hmm. Et Shirley Bassey, la seule interprète, on le rappelle, à avoir chanté trois génériques de James Bond, Goldfinger, Les Diamants sont éternels et Moonraker, a failli chanter une quatrième fois en 2008 pour le film Quantum of Solace. Sa chanson « Not Good About Goodbye » était en finale, mais elle n'a pas été choisie. Where is the solace that I crave? Will it still haunt me to my grave? Too broken to forgive, too painful to relive now. There may be other dans un James Bond pourtant. Shirley Bassey a finalement mis ce titre dans son album sorti en 2009 et c'est Alicia Keys qui avait chanté le générique de Quantum of Solace. There'll always be a space, a
fight I have to face now. Les fortunes diverses de tous les recalés des James Bond grâce à vous Anthony Martin, merci beaucoup. On vous retrouve bien entendu en podcast sur l'application RTL ou sur le site RTL.fr. Notre rendez-vous avec les grosses têtes dans un instant. Et puis bien entendu la météo de Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Yves.
A tout de suite.
RTL Matin.
On retrouve nos grosses têtes de 15h30 à 18h. Et avec eux, vous le savez, on en apprend tous les jours.
Dans quel célèbre livre peut-on trouver cette phrase ? C'est quand même curieux comme tous les hommes sont enragés pour rentrer là d'où ils sont sortis.
Romain Gary. Nobel.
Romain Gary, ah ouais. Excellente réponse ! de Jean-Philippe Janssen. Moi, je pense qu'on vous a sorti du ruisseau ch'ti.
Ah oui.
Il y a 4-5 ans.
Ah, et puis maintenant, je suis dans un océan de savoir.
Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes au Grosse Tête? J'ai l'impression que vous êtes arrivé l'année dernière.
Oh, ça fait non. C'est parce que je reste fraîche.
3 ans.
34 ans. Ah, bah, non, mais c'est ma 5e année.
Ah ouais.
C'est pas vrai.
C'est pas on
vrai.
Fait, ouais, oui, en octobre, on fêtera la 5e année.
On l'a connu tout petit. Oh là là.
Et moi, je ne me rends pas compte, je démarre ma 8e saison des Grosses Têtes. Vous vous rendez compte saison. Un peu, 8e saison.
Et moi, ma 30e.
Ça passe vite,
ça
se voit.
Vous les retrouvez tous dès 15h30 sur RTL. Louis Baudin, notre météo en quelques mots.
Oui, avec l'amélioration qui est en route, hein, ça, la bonne nouvelle. Fini les grosses précipitations, les orages. Alors, il y a encore quelques petites pluies ce matin dans les régions de l'Est, mais cet après-midi, c'est bien le soleil qui s'imposera partout ou presque. Il restera à quelques averses près des frontières du Nord-Est, là, du côté des Ardennes, ou encore sur les Alpes sous forme de plus de neige des 1700 mètres. Attention au Mistral et la Tramontane, jusqu'à 90 km par heure cet après-midi, mais beaucoup de soleil près de la Méditerranée. Les températures, ben voilà, ça baisse, hein, 14 à 18 degrés dans la moitié nord, 17 à 20 degrés dans la moitié sud et encore 23 à 24 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse.
RTL, 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 6 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et je voudrais d'abord vous faire entendre un témoignage saisissant. C'était hier au procès des attentats du 13 novembre. La cour entendait les victimes des attentats des terrasses. Parmi elles, David. Il est infirmier et il a tenté de sauver le frère de Salah Abdeslam, Brahim, avant de se rendre compte qu'il portait une ceinture d'explosifs.
Lorsque j'ai commencé, pour moi, c'était quelqu'un qui était blessé. J'ai continué de masser, j'ai vu qu'il y avait des fils. Et c'est là que j'ai compris que c'était un kamikaze qui s'est fait exploser avec une ceinture. Mais j'ai continué de masser. Je suis soignant, j'ai décidé de masser, je continue à le masser. C'est un lendemain, un policier très maladroit va me traiter de fou et de taré parce que j'ai massé un kamikaze. Je suis rentré chez moi, je me suis affalé dans mon canapé. Et là, je me suis dit, oui, j'ai failli mourir. Et ça m'a trotté pendant un an.
Témoignage recueilli pour RTL par Anne Le Hénaff. Aujourd'hui, parole aux rescapés du Bataclan et aux familles des victimes.
L'Église catholique est désormais face à un défi immense, trouver une réponse à la déflagration causée par le rapport Sauvé.
Un rapport accablant. Depuis les années 50, 330 000 enfants ont été victimes d'agressions sexuelles au sein des institutions religieuses. La commission Sauvé préconise une indemnisation et elle propose 45 mesures pour en finir avec ce fléau, y compris des mesures qui relèvent du Vatican, comme la fin du célibat des prêtres ou la fin du secret de la confession. L'archevêque de Lyon, Olivier de Germay, n'est pas contre.
C'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'absolu, le secret de confession, parce que ça touche à la confiance. Je pense que dans une société, c'est très important d'avoir des lieux où on est sûr que, quoi qu'on dise, ça ne sortira pas. Mais là, vu la gravité des faits, et compte tenu de la psychologie d'un enfant et de la liberté intérieure d'un enfant, moi, personnellement, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir.
L'archevêque de Lyon avec Frédéric Perruche. Hier, le pape François a exprimé son immense chagrin face à l'effroyable réalité dévoilée par la commission Sauvé. Ce sont ses termes. Anne Hidalgo tente de faire décoller sa campagne présidentielle avec une proposition choc pour le moins inattendue. Dans un entretien à Libération, elle suggère de baisser les taxes sur le carburant au risque de déboussoler son propre camp. Jusqu'ici, sa politique était plutôt de bannir la voiture de Paris. Elle en débattra ce soir à 18h sur RTL avec Pierre Chasseret, le délégué général de 40 millions de automobiliste. À l'Assemblée, les députés ont adopté hier soir à l'unanimité l'interdiction de ce qu'on appelle les thérapies de conversion, des pratiques d'un autre âge qui veulent guérir les homosexuels. C'est le terme généralement employé.
C'est assez rare pour qu'on s'y arrête. Dimanche dernier, à Marseille, les policiers de la BAC Nord ont été victimes de tirs dans la cité de la Bricarde.
Vraisemblablement des tirs de Kalachnikov. Oui. Ils ont échappé à la mort en se réfugiant derrière un muret. La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, était l'invitée des petits matins d'RTL.
J'ai cette crainte à tout moment d'avoir la responsabilité d'un mort, d'un blessé grave parmi les personnels sous mon autorité. Mais je les vois aussi très régulièrement. Ils savent que leur mission a du sens. Je leur dis qu'aucune intervention ne mérite de ne pas revenir le soir. Mais il faut quand même mener ce combat-là et le mène avec beaucoup de courage.
La préfète des Bouches-du-Rhône avec Jérôme Florin. Ce Noël 2021 sera plus que jamais Made in France. RTL vous le révèle ce matin. Alors que les jouets venus d'Asie souffrent de pénurie, les ventes de jouets français ont progressé de 10% en un an. Cela représente désormais 15% du marché. C'est même beaucoup plus pour certains jeux comme les puzzles ou les jeux de société. Comment sortir de la crise des sous-marins australiens? La France et les États-Unis y travaillent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu hier à l'Élysée. Un long tête-à-tête pour restaurer la confiance. Mais pour l'instant, les relations restent fraîches. Plus que jamais, Emmanuel Macron plaide pour une Europe de la défense. Anthony Blinken, lui, veut croire aux vertus du dialogue.
On aurait pu, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication. On a parfois tendance à prendre pour acquis une relation aussi importante, aussi profonde que celle qui lie la France et les États-Unis. Suite aux instructions des deux présidents, ce qu'on fait maintenant depuis quelques semaines, c'est un approfondissement à la fois au niveau de la consultation et communication, mais aussi sur la coordination et la coopération sur les dossiers les plus importants qui lient nos deux pays.
Anthony Blinken hier soir sur France 2. Et pendant ce temps aux États-Unis, les gardes-côtes cherchent l'origine de la marée noire qui menace les plages de Californie. Elle a peut-être été causée par l'ancre d'un navire qui aurait percé un oléoduc. Au total, 24 km de littoral ont été fermés au sud de Los Angeles. La fuite pourrait atteindre 500 000 litres de pétrole brut. C'est une première dans l'histoire du cinéma. Un film va être tourné dans l'espace. Ah oui. Une capsule Soyouz s'est arrimée hier à la Station Spatiale Internationale avec à son bord une actrice et un réalisateur russe. Ils ont dû s'entraîner 4 mois pour 12 jours de tournage. Thomas Pesquet et ses amis, eux, vont juste assister au tournage. Ils ne vont pas y participer.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, on va parler du plus grand sportif britannique de tous les temps, Yves. Son nom est Bond, James Bond.
Ah, mais bien sûr. Rendez-vous dès 8h40. Dans un instant, François Langlais va nous dire que oui, les salaires pourraient augmenter. Il me fait oui avec la tête.
Il opine du bonnet.
Il opine du bonnet. Chef. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMI, vient de déposer une petite bombe dans les négociations sociales qui se profilent.
Oui, rien moins qu'une augmentation de salaire jusqu'à 9%, selon Thierry Grégoire de l'UMI, président de la branche saisonnière de cette organisation professionnelle. Avec éventuellement un 13e mois, une prime d'intéressement au résultat de l'entreprise, voire un week-end par mois sans travail. C'est Noël en octobre. Il s'agit, selon le responsable, de répondre à la grave crise de recrutement que connaît le secteur de l'hôtellerie-restauration. Il y aurait plus de 100 000 emplois à pourvoir sur le pays, des emplois qui ne trouvent pas preneur.
Mais alors que disent justement les patrons du secteur?
Ils tordent un peu le nez. Avec quand même des arguments qu'il faut entendre. Certains expliquent par exemple que le salaire n'est qu'un élément. Le problème, disent-ils, c'est la nature même du travail qui rebute désormais les candidats potentiels. Candidats qui ont fait l'expérience d'une vie différente pendant les confinements, quand les restaurants étaient fermés. Et c'est vrai que l'épidémie a probablement éloigné certains salariés de leur emploi et de leur employeur. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'à entendre certains recruteurs, l'épidémie a eu à peu près le même effet que les 35 heures, il y a 20 ans, en revalorisant le temps libre et en dépréciant l'activité professionnelle. Pour autant, bon, on peut se dire que justement, l'un des moyens de séduire à nouveau les salariés, c'est quand même d'augmenter leur rémunération, tout en améliorant les conditions et les horaires de travail, bien sûr. D'autres ont un autre argument. Ils expliquent que c'est en réalité très pénalisant d'augmenter les salariés.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire, pardonnez-moi, exactement?
Pour un salarié payé au SMIC, les exonérations de charges, qui sont réglées par l'employeur, sont importantes. Dès lors qu'il monte dans l'échelle des salaires, l'avantage diminue. Ça signifie que plus un salarié est augmenté, plus son employeur paie de charges sociales proportionnellement. Oui. La France a construit, sans le vouloir, une sorte de trappe à bas salaire avec son système d'exonération de charges qui concentre l'avantage maximum sur les rémunérations les plus faibles. Bon, c'était pas sans raison. Oui. Il s'agissait de créer le maximum d'emplois non qualifiés qui sont les plus exposés à la concurrence internationale ou à la concurrence technologique des machines. Et l'objectif, c'était bien sûr de faire baisser le chômage. Mais ça a eu un effet pervers, celui de dissuader les augmentations.
Alors, pour le coup, l'initiative de l'UMI a-t-elle une chance de faire tache d'huile?
Oui, c'est tout à fait vraisemblable, c'est tout à fait possible. D'autres secteurs connaissent des pénuries, le transport routier et la logistique par exemple. Il manquerait 40 000 chauffeurs et quelques 80 000 personnes dans la logistique. Les négociations du secteur démarrent bientôt le 10 novembre prochain. La pression va être forte. Et puis, au-delà même des secteurs en tension, une enquête publiée hier par le cabinet Hello Work indique que 9 employeurs sur 10 sont prêts à rallonger la sauce pour embaucher le bon candidat. Quant aux salariés en place, ils peuvent et ils vont se prévaloir d'une inflation qui a quand même monté. Hein. Elle a dépassé les 2% annuels. Elle a toutes les chances d'aller plus loin. On observe déjà le mouvement dans toute l'Europe, en Allemagne. Le puissant syndicat IG Metall, qui donne le ton dans l'industrie, réclame aujourd'hui 4,5% d'augmentation. Au Royaume-Uni, les salaires ont augmenté de 8,3% sur un an. C'est considérable. En Espagne, le salaire minimum a pris 30% depuis 2019.
Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et bien justement, qui est votre invité ce matin ?
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances, de la relance. Nous allons bien sûr revenir sur les prix de l'énergie qui flambent.
A tout de suite avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Alba Ventura.
Si vous n'avez pas d'idée pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie, carburant, gaz, électricité, d'autres en ont pour vous. Anne Hidalgo propose ce matin de baisser les taxes sur les carburants. C'est une proposition intéressante selon vous ?
Les carburants, ils augmentent fortement, ça n'a échappé à personne.
Et donc les taxes
avec
aussi.
Avec un plus haut historique et les taxes aussi. Je note l'incohérence complète de la proposition d'Anne Hidalgo qui à la fois veut accélérer la transition écologique et qui propose en gros de subventionner les énergies fossiles. Mais on n'est pas une incohérence près dans cette campagne électorale. Nous suivons attentivement chacun des prix de l'énergie. Et nous apportons avec le Premier ministre à chaque fois une réponse pour protéger les Français. Le prix du gaz augmente. On fait un chèque énergie et on bloque les prix du gaz. Les prix d'électricité devraient augmenter de plus de 12% au 1er janvier. Mmh. On va contenir la hausse à 4%. Ça aurait été trois fois plus si on n'avait pas contenu la hausse des prix d'électricité. Sur les prix de l'essence et du diesel, je vais continuer à suivre. Nous allons continuer collectivement à suivre ces prix. Si jamais cette envolée se poursuit, certainement qu'il faudra réagir.
Parce qu'au moment des Gilets jaunes, vous aviez suspendu la hausse des taxes.
Mais Alba Ventura, je veux simplement insister sur le fait que notre cap doit rester celui de la transition écologique. Et que les mesures de soutien aux énergies fossiles ne doivent être là que pour protéger les Français. Leur éviter que ça pèse trop sur leur budget. C'est vrai pour le chauffage, donc on l'a fait sur le gaz. C'est vrai pour l'électricité, donc on le fait également.
Mais pourquoi vous n'imaginez pas compenser la hausse par une baisse de taxes même légère ? Ça, mais c'est inenvisageable.
Mais rien n'est inenvisageable. À partir du moment où il y a une flambée des prix du gaz, qui est sans précédent, que le retour de la croissance, qui est une bonne nouvelle pour nous tous, se traduit aussi par une flambée des prix de l'énergie. Mmh. Il faut laisser toutes les portes ouvertes et réagir à chaque fois lorsque c'est nécessaire et lorsqu'il faut protéger temporairement le pouvoir d'achat des Français.
Xavier Bertrand,
nous le faisons sur le gaz, nous le faisons sur l'électricité. S'il faut le faire à un moment donné sur les carburants parce qu'ils continuent à s'envoler, nous sommes prêts à le faire.
Xavier Bertrand, votre ancien collègue, dit qu'avec les taxes, 2 milliards d'euros sont entrés dans les caisses de l'État et le chèque énergie vous a coûté 580 millions. Il dit que vous devriez rendre l'argent.
Je pense que c'est une illustration nouvelle de l'immense confusion qui règne dans cette campagne électorale et qui fait que les candidats, les uns après les autres, semblent perdre toute cohérence. Anne Hidalgo avec sa proposition sur la voiture.
Mais là,
et maintenant, Xavier
Bertrand,
enfin, je ne sais pas d'où il sort ce chiffre, ces 2 milliards d'euros qui sont inventés et sortis de son chapeau par Xavier Bertrand. Il oublie que lorsqu'il y a une augmentation de ces taxes, il y a aussi des charges qui pèsent sur les entreprises, que ces charges sont déduites de l'impôt sur les sociétés. Donc il y a moins de rentrées fiscales de l'impôt sur les sociétés, moins de recettes. Il oublie qu'on a dépensé 600 millions d'euros pour le chèque énergie, pour protéger les Français, et que chaque ménage, 6 millions de ménages, va recevoir à partir du 1er décembre 100 euros de chèque supplémentaire. Donc tous ces calculs d'apothicaire faits par Xavier Bertrand et par d'autres
néanmoins,
ne tiennent pas la route.
Est-ce
revenons
que ces sujets de
à la raison et à la cohérence.
Ne viennent pas plomber votre communication sur le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire ?
Mais il n'y a pas de communication sur le pouvoir d'achat, Alba Ventura. Il y a une ligne politique qui est la même depuis 2017, avec un objectif, c'est l'emploi. C'est ça notre objectif premier. Et le pouvoir d'achat, nous le protégeons lorsque c'est nécessaire, et nous le faisons avec beaucoup de force, avec le président de la République, avec le Premier ministre, je l'ai rappelé sur le gaz, je l'ai rappelé sur l'électricité, je pourrais citer d'autres exemples. Mais il ne faut pas perdre de vue ce qui est la ligne de force du quinquennat. Et ce n'est pas parce qu'on est en campagne présidentielle qu'on voit les uns les autres multiplier des propositions tout aussi incohérentes les unes que les autres, que nous, la majorité, le gouvernement, nous devons perdre de vue notre fil à plomb. le travail. Parce que c'est le travail qui donne la rémunération. Le travail, ça veut dire protéger les Français pendant la
et
crise
augmenter les
avec
salaires.
L'activité partielle, pour que les gens ne perdent pas leur salaire. Ça veut dire augmenter la prime d'activité, comme nous l'avons fait. Nous avons doublé le montant de la prime d'activité pour que les salaires soient plus rémunérateurs. Nous avons baissé les impôts massivement, parce que ce que ne supportent pas les Français, c'est de travailler et qu'on les prive du fruit de leur travail avec des impôts trop importants. Nous avons baissé les impôts sur les salaires les plus modestes. Et nous avons créé, pendant la durée du quinquennat, 750 000 nouveaux emplois. Ce qui distingue, Albert Ventura, la majorité des oppositions, c'est la cohérence et la clarté de notre ligne politique.
Permettez-moi
l'emploi.
De revenir sur l'énergie, puisque vous venez de rentrer de Luxembourg, où se tenait le sommet des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne. Et évidemment, c'est la flambée des prix de l'énergie qui vous a occupé. Vous dites, vous êtes allé plaider quoi à Luxembourg ?
Et c'est le vrai combat, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on peut réagir à court terme, on essaye de colmater des brèches, on fait le mieux possible. Mais la vraie réponse, c'est une réponse structurelle européenne. Aujourd'hui, le prix du gaz flambe. Mais ce qui est scandaleux pour les Espagnols, pour les Français, c'est que notre prix de l'énergie, ce que vous payez, vous, Albert Ventura, nos auditeurs, c'est pas le prix moyen de production en France, qui est de l'ordre de 40 euros le mégawatt, c'est le prix marginal du fonctionnement des centrales à gaz qu'on fait tourner lorsqu'on a besoin de plus d'énergie. Mmh. Là, on arrive à 170 euros le mégawatt. Donc nous qui avons des installations nucléaires, on paye pour notre nucléaire, on paye pour nos installations nucléaires, et en plus, on a un prix d'énergie qui flambe parce que notre prix que nous payons est indexé sur le prix du gaz.
Ça, comment vous faites passer aux Allemands, par exemple ?
Nos amis espagnols, ils nous disent, écoutez, nous, on a construit massivement des énergies renouvelables, on voudrait payer le prix de nos énergies renouvelables. Ben non, on paye le prix du gaz. Ce n'est pas très incitatif à accélérer la décarbonation et à développer des énergies renouvelables.
Mais donc, à vos amis européens, vous leur avez dit plus de nucléaire ?
J'aurais dit proposition très simple. Il faut que le prix payé par le consommateur en France ne soit pas indexé sur le prix du gaz, mais qu'ils soient indexés sur le coût moyen de production de l'énergie en France. Et je peux vous dire que je livrerai ce combat avec la plus grande détermination. Parce que effectivement, nous avons des centrales nucléaires, que le nucléaire est un atout considérable, que c'est de l'énergie sans CO2, et qu'il n'y a aucune raison pour que les ménages français payent le fonctionnement des centrales à gaz qui tournent à l'est de l'Europe.
Vous plaidez pour construire plus de centrales nucléaires en France ?
Oui. Enfin, ce que nous montre aujourd'hui, de manière très crue, la crise énergétique, c'est un, il faut être plus indépendant. Pas dépendre de la volonté de M. Poutine ou d'autres lorsqu'ils font tourner leur centrale à gaz et que le prix flambe. L'indépendance, c'est le nucléaire. Deux, que nous allons avoir besoin de plus d'électricité décarbonée. L'électricité décarbonée, c'est le nucléaire. Trois, qu'il y a un marché pour le nucléaire, parce que d'autres États, aujourd'hui, se disent « Tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir des centrales nucléaires, peut-être de plus petite taille, peut-être qu'il faut réfléchir sur de nouveaux modèles ?» Pour ces trois raisons, je pense qu'il est nécessaire de réinvestir sur le nucléaire. Nous avons commencé à le faire, et le président de la République annoncera dans quelques jours un plan d'investissement. Nous verrons la place qui occupera le nucléaire.
Bruno Le Maire, nouveau scandale financier, celui des Pandora Papers, c'est un dossier d'évasion fiscale. Vous avez commencé à dresser la liste des fraudeurs français ?
Oui, j'ai demandé à la DGFiP immédiatement, je l'ai saisi immédiatement, et je leur ai demandé de regarder s'il y avait des contribuables français qui figuraient dans cette liste. Nous serons intraitables avec ceux qui ont triché. Simplement, ça demande beaucoup de travail technique pour s'assurer qu'il s'agit bien de résidents fiscaux français.
Mais comment on récupère l'argent ?
Mais on l'a fait dans les Panama Papers.
370 millions d'euros.
Eh bien, on constitue une task force avec le parquet national financier, avec la Direction générale des finances publiques. On va rechercher les contribuables qui ont triché, les résidents fiscaux français qui auraient triché.
On a entendu parler de Dominique Strauss-Kahn, de Guy Forget, c'est exact ou pas ?
Je ne donner absolument aucun nom. D'abord parce qu'il y a un secret fiscal et ensuite parce qu'il faut faire les investigations nécessaires. Je veux juste le dire avec beaucoup de clarté. Je serai intraitable avec ceux qui ont triché avec le fisc français.
Bruno Le Maire, permettez-moi de vous sortir du champ économique. Le pape François a dit hier son immense chagrin face à l'effroyable réalité. Cette effroyable réalité, c'est 330 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église. C'est ce qui ressort du rapport de Jean-Marc Sauvé, vous qui êtes catholique. Comment vous avez réagi ?
Du chagrin, c'est un mot qui est juste. J'ajouterais beaucoup de colère. Beaucoup de colère.
Comment
l'Église
se remet ça ? J'ai
été élevé effectivement dans cette église catholique. J'ai été élevé dans un établissement catholique. Et ça suscite en moi une colère profonde et ça me bouleverse profondément. De tous les rapports qu'il m'est arrivé de lire dans ma vie politique, celui-là est celui qui m'a le plus touché, le plus bouleversé. Parce que faire le mal, c'est déjà terrible. Faire le mal sur des enfants, c'est encore plus terrible. Mais faire le mal sur des enfants au nom du bien, c'est impardonnable. Ça me fait penser au mot de Pascal, jamais on ne fait le mal si pleinement que par conscience.
Merci beaucoup Bruno Le Maire.
Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver bien entendu sur le site rtl.fr. Bruno Le Maire, vous restez avec nous puisque dans une vingtaine de minutes, vous répondrez aux questions des auditeurs au 3210 et puis dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55, bonjour Philippe.
Bonjour.
Je crois que vous êtes ravi de la présence de Bruno Le Maire.
Ravi. Nous recevions hier Cyril Hanouna, ce matin Bruno Le Maire, enfin un invité sérieux avec une liquette impeccable. Fini la politique spectacle, Alba se reprend et c'est bien. Je suis très heureux de rencontrer Bruno Le Maire car nous avons de nombreuses passions en commun.
Oui.
L'économie, le jogging, mais surtout la poésie allemande. D'ailleurs, Goethe disait, et je m'excuse d'avance parce que Goethe était de Francfort, vous le savez, et moi j'ai plus l'accent de Stuttgart. Goethe disait « Man soll alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treifliches Gemälde sehen und wenn es möglich zu machen wäre, eine Vernünftigung Wörter sprechen. » Vous en pensez quoi?
Dit par vous, c'est presque joli. Moi, ouais, je ne comprends pas un mot d'allemand.
Excusez, c'est con, Bruno. Personne ne parle allemand ici, à part nous deux. Ils ont dû faire un espagnol LV2 comme oui, tous les élèves médiocres. Donc je traduis pour tous les derniers de la classe. Chaque jour, nous devrions au moins écouter une courte chanson, lire un bon poème, regarder un beau tableau et si possible dire quelques paroles raisonnables dans ta gueule, France Inter.
Goethe. Alors, les sondages sont bons pour Bruno Le Maire. Il est populaire et détient même un des records de longévité à Bercy.
Ah oui, on l'oublie un peu, mais Bruno Le Maire a été aussi un redoutable candidat à la primaire des Républicains oui. Du temps des Harlem Globetrotters de la droite. Sarkozy, Juppé, Fillon. C'était autre chose que Michel Barnier, là, le Jean-Marc Ayrault de droite, Ciotti, Jiminy Criquet, Philippe Juvin avec sa tête de voisin de la classe. Là, on est sur de la Ligue 2 maintenant et c'est vraiment ballot parce que la primaire 2021... Vous l'auriez gagné tranquille, Bruno. Vous faisiez un jogging, vous déboliez sur le plateau du débat en short, même pas douché, pas préparé, ça passait crème. La vie est mal foutue parfois.
Alors, Bruno Le Maire est un vrai auteur et un passionné de littérature. Deux points communs qu'il partage d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy.
Eh bien, je sens une pointe d'ironie dans votre voix et je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de l'ancien président. Non, Bruno et Nicolas adorent les livres. Même si on a un qu'on croit plus que l'autre. Hein. Disons que si les deux faisaient la dictée de Pivot, ben on miserait plus sur Bruno, voilà, c'est tout. Mais nous, on est des cons, on se fie aux apparences. Sarkozy, en 2007, c'est Bigard, Faudel, Barbelivien, Clavier, et les petites phrases hein, comme « Qu'est-ce que ce pauvre con ?» Mais ça, c'était des couvertures, c'était de la pudeur. Il voulait cacher que c'était un intellectuel. Sarkozy, son truc, c'est les lettres. En tout cas, ce n'est pas les chiffres, hein. Comme on a vu récemment.
Bon, un mot d'Edouard Philippe qui inquiète La République En Marche, car il lance son parti le 9 octobre prochain. Vous pensez qu'il a une idée derrière la tête?
Mais non. Il a dit qu'il soutenait Macron, il soutient Macron. Il est loyal, Edouard Philippe. Bon, remarquez, la loyauté en politique, c'est un peu comme la notion de fidélité en club échangiste. Hein. C'est un concept un peu flou.
Mais il y aura Christophe Castaner le 9 octobre.
Oui, donc c'est une soirée échangiste.
Bon, alors Emmanuel Macron a promis en début de mandat de faire de l'égalité homme-femme sa grande cause. Ouais. Et finalement, tous les ministères régaliens sont tenus par des hommes.
Oui, mais à un moment, Yves, pour les ministères sérieux, faut quelqu'un de sérieux. Hein, hein. Je suis désolé, il n'y a que Alba, il y a deux autres femmes, elles vont comprendre. Je vous explique avec des mots simples pour que vous compreniez. Il y a souvent deux voitures dans un foyer. Hein. Il y a une grosse Laguna nickel et une petite 106 un peu pourrie. Bah, c'est papa qui conduit la Laguna. Et c'est la maman qui conduit la 106.
Malotru.
Parce que, voilà, la petite 106, parce que c'est pas grave si elle est rayée.
Il y a plein de pays où les femmes sont premières ministres. Je les cite au hasard. L'Estonie, la Finlande, l'Islande. La Norvège, le Danemark.
Mais qu'est-ce que je dis? C'est des petits pays qui sont conduits par des femmes. C'est pas grave si l'Islande, elle est un peu rayée. Et si l'Estonie, elle est un peu emboutie de l'arrière, on s'en fout. Mais la France, c'est un gros pays. C'est mieux si elle est conduite par un homme. C'est un camion.
Oui.
Bon, cela dit, Angela Merkel, le dictateur africain de Berlin, elle a fait 16 ans au pouvoir. Elle a fait de l'Allemagne la première économie d'Europe, hein, François Langlais. Et premier, c'est pas mal. Elle aurait pu mieux faire. Mais c'est pas mal. Et comme disait Goethe, Angela mentait en toi pendant que par en palin. Car Goethe parlait créole.
À 7h55 en direct et quand vous le voulez sur le site rtl.fr dans un instant notre journal de 8h et bien entendu nous retrouvons Bruno Le Maire qui répondra à vos questions au 3210 d'ici une petite vingtaine de minutes.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, ce document RTL, une plongée au cœur de la cité marseillaise où des policiers ont été pris pour cible dimanche dernier.
Visé à l'arme de guerre par des dealers prêts à tout désormais pour protéger leur territoire. Reportage RTL à découvrir dans quelques instants. Baisser les taxes sur l'essence, une proposition d'Anne Hidalgo qui étonne. Ou comment la maire anti-voiture de Paris entend devenir la candidate qui parle aux automobilistes. Dans ce journal également, l'étonnant succès des jouets français face à l'Empire chinois. Le Made in France impose petit à petit dans les foyers. Les ventes ont bondi de 10% cette année. Deux frères et un même maillot, Lucas et Théo Hernandez, pour la première fois réunis en équipe de France. Ce sera demain soir. Vous entendrez dans un instant la fierté des deux joueurs. Et puis du vin de Bordeaux en canette. Mais qui a eu cette idée folle? Figurez-vous que ce sont des Français. On vous expliquera tout ça.
Votre surf de l'info, Cyprien Signy.
On prend la machine à remonter le temps pour écouter les commentaires politiques à 6 mois de la présidentielle, mais il y a 5 ans.
Bah oui, ce sera dès la fin du journal.
À tout à l'heure. RTL Matin.
C'est donc un document exceptionnel que nous vous proposons pour démarrer ce journal. Une immersion au cœur de la cité de la Bricarde à Marseille. Théâtre, dimanche dernier, d'une fusillade. Alors que des policiers de la BAC Nord menaient une opération anti-drogue, ils ont été la cible de tirs. Des tirs à balles réelles. Les dealers, probablement armés de Kalachnikov, des expertises sont toujours en cours, n'ont donc pas hésité à en faire usage. Il ne s'agit plus cette fois d'intimider, mais bien de viser et de tuer des forces de l'ordre sous l'œil impuissant des habitants. Plongé dans le quotidien d'une cité marseillaise entre terreur et résignation. C'est le choix ce matin de la brigade RTL et c'est un reportage signé Morad Jabari.
Le petit muret en béton est criblé de balles. Juste derrière, à plat ventre, c'est ici que les 8 membres de la BAC Nord se sont réfugiés. Des tirs à l'arme lourde, au pied de cette longue tour, des caddies, des poubelles barrent l'entrée, c'est le point de deal.
Il y a du monde qui passe, hein. Hommes, femmes, tout le monde achète.
Sous les fenêtres de Manuel, le week-end dernier, assis dans son canapé, il a entendu des coups de feu, un peu plus fort que d'habitude.
J'ai entendu un coup de feu. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu un gros... J'ai reculé de la fenêtre. Les coups de feu... Ils ont mis un jour un policier, il a tiré des rafales. Kalachnikov, je connais son bruit, c'est des coups de gros calibre. Après, il y a eu une intervention de plusieurs fourgons de police, ils ont fait des perquisitions.
Trois Kalachnikov, un pistolet, des gilets pare-balles et de la drogue sont alors retrouvés dans un appartement juste en dessous de celui de Manuel. Les coups de feu ne sont pas quotidiens, mais désormais fréquents. Le point de deal en bas de l'immeuble est là depuis plusieurs années, entre les canapés déchirés, des scooters calcinés. Pascal traîne difficilement son cabas sur le trottoir défoncé. Elle habite la tour depuis plus de 40 ans et a apprivoisé le langage des dealers.
À tous les mots, je sais. Dès qu'ils voient un policier, c'est un rat, c'est bon, il passe, ça va. Mais sans quoi le reste? Moi, ils me foutent la paix. C'est toujours peur d'une balle perdue, quelque chose comme ça. Qui se tue entre eux, ça, je m'en fous complètement.
Pascal a entendu évidemment la fusillade le week-end dernier où aucun policier visé n'a été blessé. Mais ils sont tous très marqués, comme le confie Eddy Cid du syndicat SGP Police.
Mes collègues sont relativement choqués car ils avaient 9 mm. Par contre, face à eux, il s'agit de Kalachnikov. Cette arme de guerre-là transperce des portières de véhicules. Mes collègues ont dû faire eux-mêmes usage de l'HKG-36, qui est une arme qui nous a été dotée lors des attentats de 2015 du Bataclan pour lutter contre les actes terroristes.
Les 8 membres de la BAC Nord ont été laissés au repos. D'ici peu, ils vont être auditionnés. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte suite à cette fusillade. Deux hommes ont été interpellés déjà, dont un jeune homme de 22 ans connu pour trafic et port d'armes.
Un reportage signé Morad Jabari. Il est 8h04, cette proposition à présent d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, candidate à la présidentielle, qui explique ce matin dans un entretien au journal Libération vouloir diminuer les taxes sur le carburant.
Et faire baisser de fait le prix de l'essence, proposition pour le moins étonnante de la part d'une élue qui n'est pas franchement connue pour sa politique en faveur de la voiture. Suppression des places de parking, réduction de la voirie, baisse de la vitesse. Sauf que la maire de Paris est devenue depuis, vous le disiez, candidate du Parti Socialiste et qu'il est urgent désormais de parler non plus seulement aux Parisiens, mais à tous les Français, quitte à opérer un virage à 180 degrés, Thomas Després.
Oui, une proposition inattendue qui intervient alors que sa campagne patine à moins de 10% dans les sondages, dépassée dans toutes les enquêtes par le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Anne Hidalgo est forcée d'innover pour se démarquer, quitte à bousculer à gauche. Dans son camp, la proposition a été bien accueillie, mais forcément, chez les proches de Yannick Jadot, on s'étonne alors que certains imaginaient les deux candidatures converger. Si le PS s'intéressait vraiment contrairement aux catégories populaires, il n'aurait pas perdu toutes les élections depuis 2012, tranche un lieutenant du candidat des Verts. Reste à savoir si cette proposition permettra à Anne Hidalgo de relancer sa campagne, moins d'un mois seulement après l'avoir débutée.
Thomas Després du service politique de RTL est interrogé il y a quelques minutes sur cette proposition de baisser les taxes sur le carburant. Bruno Le Maire dénonce l'incohérence de la proposition. On ne peut pas vouloir à la fois accélérer la transition écologique et subventionner les énergies fossiles, a estimé le ministre de l'Économie.
Anne Hidalgo, qui sera donc ce soir l'invitée d'RTL à partir de 18h, la maire de Paris en studio face au défenseur autoproclamé de la voiture, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Ces deux-là ont souvent été en désaccord. Ils ne se sont jamais épargnés. Confrontation donc ce soir sur RTL à partir de 18h avec Julien Cellier.
L'Assemblée nationale a adopté cette nuit à l'unanimité le texte réaffirmant l'interdiction des pseudo-thérapies de conversion, ces pratiques qui visent à imposer l'hétérosexualité aux gays et lesbiennes. La proposition de loi prévoit un délit spécifique contre ces soi-disant thérapeutes, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Cette bonne nouvelle, à présent, pour les usagers des banques, alors qu'il est parfois compliqué et de plus en plus rare même, notamment lorsqu'on vit en milieu rural, de trouver le bon distributeur, celui qui correspond à votre banque et qui vous permettra d'éviter les frais de retrait. Eh bien, trois grandes enseignes, la BNP, le Crédit Mutuel et la Société Générale, ont décidé de fusionner leur DAB, leur distributeur automatique de billets, de quoi faciliter la vie quotidienne de beaucoup de clients. Illustration à Quédange-sur-Canner en Moselle, Dimitri Ramelot.
Un seul distributeur dans ce village de 1000 habitants. Et pour Benoît, client Société Générale, la mutualisation de ce service serait une aubaine.
À l'heure actuelle, quand je vais dans une autre banque, on a des frais bancaires. En moyenne, c'est 1 euro. Donc, quand j'ai besoin de retirer, je vais préférentiellement vers ma banque. Je suis entre 15 et 25 km. Des petits retraits de 30 euros multipliés dans le mois, il y en a quand même une dizaine, quoi. Donc, ça fait 10 euros en moins.
Et si une très grande majorité des habitants sont fidèles à l'enseigne installée ici depuis la fin des années 60, le maire Jean Kiffer imagine déjà les logos des trois banques sur le fronton de l'unique distributeur.
On a toujours besoin d'un peu de liquide, donc pour moi, c'est très très bien. Puisque le DAB, il restera de toute manière mutualisé, donc il n'y a pas de souci. Trois banques d'un coup, c'est tout bon.
Pas de délai pour l'arrivée de la BNP et de la Société Générale, mais la sensation pour beaucoup d'assister au retour d'une meilleure offre de services publics.
Dimitri Ramelot.
L'immense succès des jouets français, les ventes s'envolent, les acheteurs en redemandent et les fabricants relocalisent. C'est une enquête RTL à suivre dans un tout petit instant. Il est 8h08, bonne journée à tous.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal Dominique Tenza sur RTL. Alors que le salon des jouets français s'ouvre aujourd'hui près de Paris et que les catalogues seront bientôt dans vos boîtes aux lettres. Mais oui, RTL s'intéresse ce matin à ces jouets fabriqués chez nous.
Car même si le marché reste très largement dominé par les Chinois, les ventes de jouets français ont progressé de 10% en un an, chiffre que vous révèle ce matin RTL. Et figurez-vous que le jouet le plus vendu l'an dernier en France n'est pas une boîte de Lego ou de Playmobil, mais une création 100% française. Ma fabrique à histoire, une petite boîte qui raconte des histoires en fonction du scénario choisi par les enfants, imaginée et fabriquée par l'UNI, une entreprise qui a décidé de revenir s'installer dans le sud-ouest, Sophie Orange.
Et c'est désormais à Mouguère, tout près de Bayonne, que la fabrique à histoire est produite. Changement de décor donc après 5 ans en Chine. Mais il a fallu tout repenser, investir 1 million d'euros pour créer une ligne de production, explique Igor Krimbar, l'un des cofondateurs de l'UNI.
En Chine, pour produire une fabrique à histoire, on avait une ligne de production avec une quarantaine de personnes qui travaillaient dessus. Et bien évidemment, en France, c'était complètement impossible de pouvoir avoir le même nombre de personnes avec les salaires et avec l'emploi en France comparé à la Chine. Donc il a fallu qu'on crée cette machine qui ont permis de semi-automatiser toute la production.
Plus d'un million de boîtes peuvent être produites en France. Maëlle Chassard, la présidente de l'UNI, est fière d'avoir tenu sa promesse malgré les contraintes.
Aujourd'hui, ça coûte plus cher de faire fabriquer en France, 5 à 10%, mais on a décidé de rogner sur nos marges parce que le consommateur de demain, il va de plus en plus regarder les valeurs de l'entreprise, comment c'est fabriqué, avec quels matériaux, dans quelles conditions. Produire local, c'est quand même être au plus proche de son fabricant et ça a d'énormes avantages.
Et elle espère que d'autres entreprises vont suivre l'exemple de l'UNI et revenir en France.
Un reportage signé Sophie Orange. Elle est devenue symboliquement la loi anti-Amazon et elle doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée. Le texte consiste à imposer l'équivalent des frais de port obligatoires quand on achète un livre en ligne, en moyenne 3 euros de plus.
Le football et la demi-finale de la Ligue des Nations. Ce soir, l'Italie face à l'Espagne.
Avant l'autre match, demain soir, nos Bleus face à la Belgique, avec une particularité dans cette équipe de France. Deux frères, Lucas et Théo Hernandez. Oui. C'est la première fois qu'ils sont réunis. Beaucoup d'émotions, évidemment, pour ces deux joueurs inséparables que la vie n'a pas toujours épargnés. Abandonnés par leur père, élevés par leur mère, ils vivent aujourd'hui un rêve éveillé. Pour RTL et pour M6, ils se sont livrés au jeu de l'entretien croisé.
Notre histoire en commun, je pense que ça nous a soudés. Et être ensemble, réunis pour l'équipe de France, je pense que c'est la plus grande fierté pour nous et pour notre famille.
Quand vous étiez enfant, honnêtement, vous pensiez à ce moment-là? Vous le rêviez ou c'était quelque chose de complètement dingue?
Non, pas du tout. Déjà, quand on était petit, c'était déjà compliqué de s'imaginer qu'on allait jouer en pro. C'est incroyable, c'est mon frère et j'aimerais bien qu'il soit à mes côtés pendant longtemps.
Théo, comment vous l'avez vécu cette annonce? Est-ce que vous imaginez la réaction de votre maman? Par exemple.
Quand la liste a sorti, elle m'a appelé, elle pleurait. Mais c'est normal, non? Nous, on a passé des moments difficiles. Quand on était petit, et ma mère, elle était là tout le temps, voir deux frères en équipe de France. Mais c'est normal qu'elle pleure, non?
Vous connaissez depuis le plus jeune âge la notion de concurrence. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit, le fait que votre frère peut éventuellement vous prendre votre place?
Oui, bien sûr, c'est une réalité. Ça fait partie du foot. Et moi, je serai là pour l'encourager, pour lui donner toutes mes forces depuis le banc. Et c'est une très belle concurrence. Pouvoir voir ton frère avec toi, même si ton frère, il va prendre ta place, ça reste un moment unique. Mais je pense que le plus beau, c'est que si un jour ça arrive, que les deux on puisse jouer ensemble, ça serait un super moment.
Voilà, une saine concurrence entre ces deux frères qui s'aiment beaucoup, ça s'entend. Propos recueillis pour RTL et pour M6 par Philippe Sanfourche. Et puis en handball, deux mois après leur sacre olympique, les filles de l'équipe de France affrontent ce soir à 21h la République tchèque à Besançon pour un match de qualification en vue de l'Euro 2022. Ce sera l'an prochain en Slovénie.
Alors certains y verront sans doute une aberration, voire même un sacrilège pour les puristes. Mais préparez-vous, le vin en canette débarque en France.
Et là, vous vous dites encore un coup des Américains qui n'ont décidément aucun goût. Eh bien non, non, c'est l'entreprise Cacolac, l'entreprise française, célèbre pour sa boisson chocolatée, qui se lance en France sur ce marché du vin en canette qui cartonne, sachez-le, partout dans le monde, sauf chez nous. Mais forcément, au pays du vin, le projet en fait grimacer plus d'un. Denis Grandjou, c'est chez vous, près de Bordeaux, que l'entreprise est implantée.
Oui, Christian Maviel, patron et descendant direct du fondateur de Cacolac, a toujours misé sur l'offensive et l'effet de surprise depuis qu'il dirige la société fondée il y a 70 ans.
On a décidé d'aller s'amuser en pur bordelais dans l'univers du vin. On n'a aucune prétention de révolutionner le monde du vin à Bordeaux.
Plutôt le mettre en canette, en aluminium, une démarche carrément osée au cœur de l'appellation Pessac-Léognan, où est implantée l'entreprise.
Les premières présentations, c'est pas passé tout seul.
Christian Maviel travaille avec un œnologue bordelais, des vins venus de tous les horizons.
Du sud de la France pour les rosés, on a fait du vin du blanc de Nouvelle-Zélande, Sauvignon de la Napa Valley.
À cette gamme, le patron de Cacolac rajoute
des vins carbonatés, donc où on met un peu de gaz et de bulles pour le rendre un peu plus festif, un peu plus joyeux.
À ce jour, aucun grand cru de Bordeaux ou d'ailleurs ne s'est manifesté pour mettre son vin dans ses canettes.
Il n'y a pas encore eu de Pessac-Léognan mis en canette. C'est bien dommage, peut-être demain, je ne sais pas.
Il faut dire, couvrir une canette de vin, c'est loin, très loin du bon vieux bouchon en Liège.
Bon, ça ne vous a pas convaincu manifestement?
Non, moi, je n'ai pas de point de vue sur les vins de Bordeaux. Donc.
C'était un reportage de Denis Grandjou.
Oui, et c'était donc le journal de Dominique Tenza. On vous retrouve avec grand plaisir pour le point de l'actualité à 9h. Dans un instant, on surfe avec vous, Cyprien.
Une machine à remonter le temps.
Oups.
RTL.
Nous allons. Dites-moi votre météo.
Oui, moi,
on
ne
va pas l'oublier, on avait l'air là comme ça. 8h16.
Et ça va aller de mieux en mieux quand même, on ne va pas rater ça. Après les intempéries qu'on a connues, on va vers le mieux. Même si encore quelques averses ce matin dans le nord, dans l'est, ces averses sont s'atténuées. Cet après-midi, le soleil va finir par s'imposer partout, de Bordeaux à Paris, de Brest jusqu'à la Méditerranée. Méditerranée où on aura du Mistral et de la Tramontane. Il n'y a que près des frontières du nord-est où on aura encore quelques passages nuageux, voire quelques pluies sur les Ardennes, en particulier, là, je vois que ça circule tout près de la frontière belge. Les températures, 14 à 18 degrés dans la moitié nord, on est dans des valeurs de saison, ça baisse petit à petit, 17 à 20 degrés dans la moitié sud et 23 à 25 degrés encore entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci beaucoup Louis, on remonte dans le temps avec Cyprien Sini dans un instant.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
8h18, remontons le temps avec ce matin Cyprien Sini.
Oui les amis. Chers auditeurs, on prend la DeLorean direction la semaine du 17 octobre 2016. Oui. C'est la semaine à 6 mois de la dernière présidentielle, exactement comme en ce moment, mais il y a 5 ans. Et là, on allume la radio et la télé de l'époque pour y retrouver... Les experts politiques, pardi. Et oui, on expliquait quoi à la radio, à la télé, à pile 6 mois de la dernière présidentielle? Et ça, par exemple.
Alain Juppé, la Juppé Mania qui se poursuit. Vous parlez de Juppé Mania, et c'est un marqueur, hein, tout à fait.
Ah oui, c'est un marqueur, la Juppé Mania, tellement marqueur que dans l'analyse du moment...
Désormais, c'est Alain Juppé, favori durable des sondages pour la présidentielle, qui fait peur.
Il faisait carrément peur à ses adversaires, Alain Juppé. 34% d'intention de vote au premier tour, le 18 octobre 2016. 2016. Alors que le même jour, Emmanuel Macron était entre 16 et 18% et jouait à un drôle de jeu. Écoutez bien, ça va vous rappeler quelqu'un.
Quant à Emmanuel Macron, troisième grand meeting ce soir. Quant au temps d'une éventuelle annonce de candidature, non, c'est toujours pas maintenant.
Ah bah, 6 mois du premier tour, 16 à 18%, fait des meetings, mais veut pas dire s'il y va pas, et... Ça ne nous rappellerait pas quelqu'un, mais ça. Si. Bref, sinon, toujours ce 18 octobre 2016, à gauche.
Les Hollandais, malgré tout, ils y croient encore. J'y crois.
Ouais, mal barré François Hollande, mais il y croyait encore. Il était entre 9 et 13% d'intention de vote. Et l'édito politique sur RTL, si François Hollande n'y va pas...
Il n'ira pas, et à ce moment-là, ce sera le temps de Manuel Valls.
Ouais, alors pas tout à fait en fait. Hein. C'est vrai que ce jour-là, il y avait une réunion à l'Assemblée et...
Il y a bien évidemment maintenant des candidatures alternatives qui se préparent. Au premier rang, bien évidemment, celle de Manuel Valls, le Premier ministre, qui est arrivé tout sourire ici.
Comme vous voyez déjà, le mieux placé à gauche. Ah oui, si vous voyez déjà Manuel Valls. Alors qu'en fin de semaine, le 20 octobre précisément, il y en a une qu'on trouvait très discrète, écoutez.
En même temps, elle n'a pas tellement besoin de parler, Marine Le Pen. Tous les sondages la donnent en tête du premier tour de la présidentielle.
Planquer Marine Le Pen en tête des sondages à 6 mois du premier tour. Après, on devait quand même un peu s'ennuyer, puisque sur LCI, il y avait Philippe Devilliers comme invité à qui on demandait.
Mais si c'est Juppé à droite, par exemple, entre Marine Le Pen et Alain Juppé, il y a un espace que vous rempliriez, que vous pourriez remplir,
ça,
non
ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Même lui, il n'y croit pas. Morale de l'histoire, à 6 mois, on ne sait pas. En même temps, même la veille du scrutin, on ne sait pas non plus. Hein. L'archive qui tue, Lionel Jospin, veille du premier tour 2002.
Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, vous ne soyez pas au second tour.
Oui.
Vous votez pour qui?
Ça me paraît assez peu vraisemblable. Donc on peut passer à la question suivante, peut-être.
Ouais, donc niveau prono, on va plutôt se concentrer sur le foot que sur la politique. Il paraît que c'est moins risqué, finalement.
Donc le match à la même date, nous sommes d'accord, c'était Juppé-Valls.
Tout à fait.
Passionnant.
Avec Marine Le Pen en embuscade.
Et voilà, et Marine Le Pen en embuscade. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir dès 18h40 pour défaire le monde avec toute votre équipe.
L'info autrement ce soir.
Dans un instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, répond à vos questions. Continuez à nous appeler au 3210 ou à envoyer des SMS au 64900 code matin en démarrant votre message par le mot très exactement matin, M-A-T-I-N. A tout de suite.
RTL. Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Il est 8h25, notre propos est bien entendu de vous donner la parole et on va commencer tout de suite. Bruno Le Maire, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre aux auditeurs d'RTL. René nous appelle des Hautes-Pyrénées où elle est retraitée. Bonjour René, merci beaucoup d'écouter RTL. Bruno Le Maire vous écoute.
Bonjour tout le monde.
Bonjour
RTL. Voilà, je voudrais connaître le calcul de ce chèque énergie parce que voilà, nous habitons, mes voisines et moi, chez un bailleur social. Donc ce qui veut dire que nous n'avons pas des revenus extraordinaires. Et nos retraites sont aux environs de 1000 euros, à peu près 1000 euros, ça tourne autour de 1000 euros. Il y a 2 ans de cela, nous avons eu un chèque de 48 euros de chèque énergie. L'année dernière, nous n'en avons pas vu la couleur. Et cette année, on nous dit jusqu'à 100 euros. Mais quel est ce calcul? Comment calculez-vous? Parce que ça me paraît bizarre. J'ai un voisin qui, en fait, a 3 appartements de louer. Et lui, il a reçu aussi, il y a 2 ans, un chèque de 48 euros.
René, alors, le ministre, je vous interromps parce que le ministre va vous répondre. Je résume, la question, elle est simple. C'est vous avez besoin d'éclaircissement sur le chèque énergie et vous voulez connaître le maximum de ressources, bien entendu, pour pouvoir en bénéficier. Bruno Le Maire vous répond.
Alors René, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais normalement, avec votre montant de pension de retraite, vous devriez être éligible au chèque énergie. Vous avez 5,8 millions de Français qui sont éligibles au chèque énergie en fonction de leur niveau de revenu. Donc c'est des niveaux de revenus les plus modestes. Donc je vais vérifier, je ne vais pas vous dire une fois encore de bêtises, mais vous devriez rentrer dans le champ du chèque énergie, c'est-à-dire 150 euros qui ont été versés au printemps dernier, 100 euros qui vont être versés dans les 15 premiers jours de décembre, et ensuite à nouveau 150 euros au printemps 2022. Donc je vais vérifier tout ça, parce que je ne veux surtout pas vous dire d'erreur sur un sujet aussi important, mais votre niveau de retraite, normalement, doit vous donner droit à un chèque énergie.
La réponse est donc a priori oui, mais on reste en contact avec vous pour vous donner les informations qui nous viendront du cabinet du ministre. Merci René. Bonjour François, vous nous appelez du département du Calvados, et nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Ma question va porter sur la révélation des Pandora Papers. Quel est le montant exact que l'État récupère dans ses fraudes fiscales?
Alors nous récupérons chaque année, accrochez-vous bien François, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros sur la fraude fiscale. C'est des fraudes de particuliers, des fraudes d'entreprises. La Direction générale des finances publiques récupère chaque année 10 milliards d'euros d'argent qui ont été fraudés, qui ont été dissimulés par les contribuables. S'agissant des Pandora Papers, je vais être là aussi très clair, François, nous ne perdrons pas un centime dans cette affaire. Nous l'avons fait sur les Panama Papers, nous avons récupéré près de 200 millions d'euros sur 67 dossiers, et 43 ont été transmis à la justice. Et ceux qui sont transmis à la justice, c'est les plus importants, donc la récupération sera encore plus importante. Pour les Pandora Papers, j'adopterai exactement la même stratégie. Mise en place d'une task force réunissant des magistrats du parquet national financier, nous en parlerons avec Éric Dupond-Moretti, task force incluant aussi des spécialistes de la Direction générale des finances publiques, pour scanner l'ensemble des contribuables qui pourraient figurer sur ces Pandora Papers. Ça demande beaucoup de travail technique pour s'assurer que c'est bien des résidents fiscaux français. Et une fois que ce travail aura été fait, nous irons vérifier s'il y a eu fraude. Et s'il y a fraude, nous récupérerons chaque centime d'euro qui a été volé au Trésor public. Je préfère avertir clairement et annoncer la couleur avec la plus grande clarté.
Je précise que la fraude fiscale, ça représente 80 à 100 milliards d'euros.
Mais on a fait avec Gérald Darmanin il y a quelques années, lorsqu'il était ministre des Comptes publics, un renforcement considérable des moyens contre la fraude. Et d'ailleurs, je dirais que c'est tout gouvernement confondu. Ça fait à peu près 10 ans. Ça a été le cas lors du précédent quinquennat. C'était le cas sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, que nous avons considérablement durci notre arsenal contre la fraude fiscale. Donc je le dis, ne vous amusez pas à frauder, parce qu'en général, vous êtes vite rattrapé par la patrouille.
Merci François, et bienvenue à Jean-Paul qui nous appelle du département du Nord. Jean-Paul, le ministre Bruno Le Maire vous écoute, c'est oui. À vous.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le ministre.
Bonjour.
C'est pas le Nord, hein, c'est pas de Calais. Hein.
Ça c'est catastrophique. Alors là, je peux vous dire qu'il y a des erreurs qu'on n'a pas le droit de commettre sur RTL, et là je vais le faire pile.
Ah oui, oui, oui. Si vous voulez la guerre dans le Nord, c'est ça. Hein. Ma question Monsieur le ministre, elle est toute simple. Bloquer ou geler tout au moins le prix de l'énergie juste avant les élections, est-ce que ce n'est pas pour calmer la colère sociale qui grimpe un peu dans ce pays ?
Alors, je vais vous répondre très clairement, Jean-Paul, c'est surtout pour protéger les Français, les ménages, contre l'augmentation des prix du gaz et des prix de l'électricité. Mais je vais être là aussi extrêmement clair et simple. Si le gaz continue à flamber, comme c'est le cas actuellement, on ne pourra pas se contenter de bloquer. Je crois que le Premier ministre a été très, très clair. Il faudra aussi réduire la fiscalité sur le gaz. Il y a une taxe qui porte sur le gaz, il y a d'autres taxes qui peuvent porter sur le gaz. Si cela continue de flamber au printemps prochain et que nous ne voyons pas une baisse significative des prix du gaz, nous serons obligés de réduire la fiscalité sur le gaz. Et ce n'est pas parce que nous sommes en période électorale, c'est parce que notre politique a été toujours de protéger les Français et qu'il n'est pas à subir des augmentations du prix d'énergie insupportables pour eux. Pour un ménage qui a à peu près 90 ou 100 mètres carrés de logement, c'est 400 à 500 euros de plus à sortir par an. Donc c'est insupportable. Quand on a mis en place le chèque énergie, on l'a reconnu tout de suite, on a dit ce complément n'est pas suffisant. Donc nous décidons de bloquer. S'il faut une troisième étape qui est de baisser la fiscalité sur le gaz, parce qu'il continue de flamber, je vais être très clair avec vous Jean-Paul, même si les élections sont juste à proximité, nous le ferons parce qu'il s'agira de protéger les Français.
Je remarque que vous ne nous parlez pas de l'essence.
Je pense avoir exprimé très clairement mes réticences sur l'essence. Toute notre politique consiste à inciter les Français à accélérer la transition écologique. Et donc à essayer de consommer le moins possible de carburant. Si à un moment donné, ça devient insupportable, je ne ferme pas la porte. Je dis juste que notre cohérence, c'est plutôt, quand on a de l'argent public, de l'employer à subventionner des nouveaux véhicules qui consomment moins, subventionner des véhicules électriques, subventionner le déploiement de bornes de recharge rapide. Si à un moment donné, ça devient insupportable, si le prix de l'essence flambe au-delà des 1,06€, qui est le cas actuellement, et qu'on arrive à des sommets beaucoup plus importants, et que ça empêche des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour se déplacer, pour aller s'alimenter, pour se rendre à l'hôpital ou à la clinique. Dans ce cas-là, nous prendrons les mesures nécessaires. Je dis juste qu'on essaye d'être cohérent par rapport à notre politique énergétique.
Et vous faites le distinguo, on l'a bien compris. Ben justement, on va rester dans cette notion d'économie verte avec une question d'Aurore, qui est étudiante. Bonjour Aurore, le ministre Le Maire vous écoute.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Calvi. J'avais une question concernant l'économie et l'écologie. Est-ce que pour vous c'est compatible actuellement? Est-ce que l'économie verte, autrement dit la croissance verte, n'est pas utopique?
Alors merci pour la question Aurore, parce que je pense que c'est un des grands débats qui devra animer la présidentielle. Et c'est un débat qui est passionnant. Et je trouve que c'est le moment justement de présenter les options. Certains vous disent, on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas de la décroissance. Mais de la décroissance, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on voyagera moins, qu'on se transportera moins, qu'on s'alimentera peut-être différemment. Ça veut dire aussi qu'en matière de santé, eh bien, nous aurons des produits de santé qui pourront être moins performants, qu'on ralentira la recherche sur les biotechnologies, parce que tout ça, ça consomme de l'électricité, ça consomme de l'énergie. Donc moi, je suis défavorable à la décroissance. Parce que la décroissance, ça veut dire que nous vivrons moins bien. Et que je ne veux pas que mes enfants ou mes petits-enfants vivent moins bien, n'aient pas accès à un système de soins de grande qualité, ne puissent pas voyager, ne puissent pas se transporter. Il y a une deuxième option qui est de dire, il faut continuer la croissance à tout va, à tout prix. Je suis opposé aussi. Je pense que c'est de la folie aujourd'hui de continuer dans cette voie-là. Et puis, il y a ce que j'appelle la croissance verte. C'est se dire, on va développer des technologies qui vont nous permettre d'avoir le même niveau de croissance en émettant beaucoup moins de CO2. Exemple, l'hydrogène. On développe massivement l'hydrogène. Vous aurez demain des trains à hydrogène. Vous avez déjà des camions à hydrogène. Vous avez déjà des bus à hydrogène. Demain, des avions à hydrogène. Et là, vous pourrez continuer à voyager, continuer à vous déplacer, mais en émettant moins de CO2, c'est cette croissance responsable que nous défendons avec le président de la République et qui est pour moi la bonne orientation.
En vous écoutant, on a l'impression qu'il suffit de remplacer une pièce de Lego par une autre. On est d'accord pour dire que ça n'est pas aussi simple
non,
que ça.
Non, c'est compliqué.
Le poids de la croissance verte n'est pas celui de la croissance industrielle
que
nous avons connue
jusqu'ici. Nous sommes, Yves Calvi, dans la période de transition. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de peur aujourd'hui, tellement d'inquiétude? Parce qu'on quitte un modèle pour rentrer dans un autre. Et le moment le plus difficile, c'est celui de la transition. Et la responsabilité politique, c'est pas de jouer avec les peurs de la transition, c'est de montrer où nous pouvons aller sur le long terme. Moi, j'ai la conviction que la France peut être un champion mondial de cette croissance verte.
Merci Aurore. Bonjour Patrick, qui nous appelle lui du Morbihan.
Oui, bonjour Monsieur Calvi. Et bravo pour les réflexions que vous faites en dehors des questions. Alors moi, je voudrais poser une question à Monsieur le Ministre, que je salue.
Bonjour.
Et pour l'instant, je n'ai pas entendu quelqu'un dire, mais moi, je tenais à vous exprimer ma sympathie pour le travail que vous effectuez et le fait que vous soyez toujours franc dans vos réponses. Alors moi, je vais être très clair. Monsieur Zemmour monte de plus en plus. Monsieur Zemmour, fait-il peur à notre gouvernement? Fait-il peur à notre président?
Merci pour la franchise de votre question, Patrick.
On commence comme ça, généralement, c'est qu'on est embarrassé.
Ma réponse, ma réponse est non. Oui. Vous voyez, ce sera la réponse la plus courte que je peux faire à une question qui est posée, c'est non.
Faut l'argumenter.
Éric Zemmour ne nous fait pas peur, Éric Zemmour ne me fait pas peur. Il met un certain nombre de sujets sur la table. Je pense qu'il faut répondre aussi à un certain nombre de sujets qu'il met sur la table. Ce serait idiot de les balayer d'un revers de la main. Il a des propos qui sont parfois outranciers, certains qui sont clairement révisionnistes. Il est pour Pétain, moi je suis pour De Gaulle. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même vision de notre histoire. Et l'entendre dire que Vichy a protégé les Juifs français, alors que Vichy a condamné les Juifs français, il a durci les propositions qui étaient faites par le régime allemand à l'époque, tout ça est profondément révoltant. Mais il faut le dire avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de force. On verra à la fin ce que les Français choisiront. Et moi, je n'ai pas trop de doutes, parce que j'ai toujours fait confiance à la lucidité des Français, à leur intelligence politique. Les Français choisiront celui ou celle qui est le mieux à même de les conduire pour les 5 prochaines années. Ma conviction, c'est qu'ils choisiront Emmanuel Macron et qu'ils lui donneront le temps nécessaire pour aller au bout de la transformation que nous avons entamée et qui donne, au moins sur le plan économique, d'excellents résultats.
Merci Bruno Le Maire d'avoir dialogué avec les auditeurs d'RTL ce matin. On va maintenant s'intéresser à notre météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin. Nous vous écoutons.
Bah oui, ça va aller de mieux en mieux. J'ai dit déjà aujourd'hui, on va retrouver de belles éclaircies, notamment dans l'ouest. Il restera quelques averses dans l'est, du vent, mais du soleil près de la Méditerranée. Et demain, sera encore mieux puisqu'on va retrouver du temps sec partout avec du soleil. Alors, quelques brumes, quelques brouillards le matin. Mais ensuite, ce soleil s'imposera. Il restera un petit peu de mistral et tramontane près de la Méditerranée. Un peu plus de nuages quand même, peut-être. mètres sur les Alpes ou encore dans l'extrême nord-est, mais sans grandes conséquences. Les températures, le matin sera un peu plus frais, hein, souvent entre 5 et 10 degrés, mais l'après-midi, nous resterons entre 15 et 19, 20 degrés dans la plupart des régions, toujours un peu plus près de la Méditerranée. Et puis pour ce week-end, hein, donc vendredi, samedi, dimanche, bah c'est du beau temps, du temps calme, ensoleillé, des brouillards le matin à cette époque de l'année, c'est tout à fait possible. Et puis en cours d'après-midi, le soleil s'imposera partout, moins de vent près de la Méditerranée. Les températures, alors gros contraste entre le matin où ça sera frais, hein, autour de 5, 6 degrés parfois dans la moitié nord, et l'après-midi où on sera souvent autour de 20 degrés et un petit peu plus près de la Méditerranée. Puis en début de semaine prochaine, on conservera ces conditions de cyclone, mais avec un petit courant de nord. Donc ça, ça va dire de l'air plus frais, probablement les premières gelées en milieu de semaine prochaine, avec peut-être un peu plus de nuages dans la moitié nord, puisque c'est un vent de nord qui va s'installer en milieu de semaine prochaine.
La face cachée de notre météo, avant la face cachée de la une, c'est dans un instant avec Isabelle Choquet. Merci Louis Baudin.
Merci.
RTL Matin, la face cachée de la une.
Il est 8h40, le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, sort aujourd'hui sur nos écrans. James Bond, un grand sportif, Isabelle Choquet.
Oui, pas de médaille olympique, pas de crampons, pas de dossard, mais c'est bien, selon l'Équipe Magazine, le plus grand sportif de l'histoire britannique. Aussi doué au tir qu'en boxe, aussi agile sur un surf que sur des skis, tout cela sans faire un faux pli à son costume et en s'hydratant à la vodka martini. 76 kilos pour 1m83. L'agent 007 est un athlète et pas seulement pour le sport en chambre. On le voit à l'œuvre dans presque chaque volet de la saga, dans la fameuse partie de golf de Goldfinger ou dans la descente en snowboard de Dangereusement Vôtre. Évidemment, il court vite et bien, il est imparable au corps à corps et il pourrait rivaliser avec Jacques Mayol niveau apnée. Vu son hygiène de vie, c'est tout à fait improbable, mais le spectateur fait comme si.
On aime bien l'idée.
C'est le seul arrangement avec la réalité, car pour le reste, pas de triche. Il fait tout pour de vrai, dit le coach sportif de la production Simon Watterson, un ancien marine. Si vous le voyez courir comme un dératé dans la rue, il court vraiment comme un dératé dans la rue. Il n'y a pas d'écran vert magique comme dans les films de super-héros. Conclusion, le casting doit être musclé. Sean Connery avait un passé de footballeur et de culturiste, à tel point qu'il a refusé de passer un test au casting. Mais quand la production l'a regardé partir, elle l'a vu bondir sur le trottoir, sauter par-dessus l'aile d'une voiture. Il a vite été rattrapé. Pour Roger Moore, c'est une autre histoire. L'acteur avait appris le karaté pour jouer dans la série Le Saint. Mais quand il devient James Bond, il a déjà 46 ans. Plus tard, il avouera qu'il a appris à skier à 50 ans et encore, il a mis 2 ans pour sortir des pistes vertes. Pierce Brosnan était plus athlétique, c'est vrai, mais un peu old school. Oui. Bond va changer de dimension en fait avec l'arrivée de Daniel Craig en 2005. Ça n'a pas été sans mal. Certes, le comédien a un passé de rugbyman, mais c'était un sportif de base, dit le coach. Aujourd'hui, quand on endosse le costume de James Bond, il faut être conscient qu'on doit devenir un athlète. C'est un bouleversement en termes d'intensité. Alors en 6 mois, Watterson va transformer Craig. Il lui a taillé ses pectoraux qu'on peut admirer quand il sort de l'eau dans Casino Royale. Mais au fil des épisodes, pour rester à flot, il lui faudra une préparation de plus en plus longue. Il a fallu 1 an pour Mourir peut attendre. En amont du tournage, Watterson regarde ce qui attend le personnage, sprint, plonger, combattre dans un hélicoptère. Ensuite, je commence le spécifique, dit-il. S'il doit se balader en serviette de bain, je coche la date et j'adapte le programme nutritionnel. Il faut anticiper de 3 à 4 semaines pour qu'il soit sec. Craig assume quasiment toutes les cascades. Il le paye cher d'ailleurs. Aucun James Bond ne s'est autant blessé que lui. 2 dents en moins lors d'une scène de combat, 8 points de suture au visage, une grosse entorse au genou qui lui a valu une prothèse bionique jusqu'à la fin du tournage de Spectre et même une cheville cassée sur le dernier film. On comprend qu'il raccroche, hein, il a 53 ans. Mourir peut attendre.
Merci beaucoup Isabelle Choquet.
James Bond, le champion ultime, dossier complet dans l'Équipe Magazine.
Le champion du rire, dans un instant, est avec nous, Laurent Gérard.
Yves Calvi, RTL Matin.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Alors que les principales formations commencent à se mettre en ordre de marche pour la future présidentielle, tous les regards se tournent vers l'Élysée, où l'on attend l'annonce officielle de... Bonjour François Bayrou. Qu'est-ce qui nous vaut l'ennui de votre visite ?
Je suis venu corriger votre analyse de la situation politique actuelle. Les regards ne se tournent pas vers l'Élysée, mais vers le MoDem. En effet, la grande question actuelle, c'est qu'allons-nous décider pour la France ?
Bon, ben, si vous le dites, allez-y, expliquez-nous donc ce que le MoDem a décidé pour la France.
Tout va dépendre d'Edouard. Attention, je ne parle pas d'Edouard Herriot, ni d'Edouard Baer,
oui,
ni même d'Edouard aux mains d'argent.
Oui, on a compris, vous parlez d'Edouard Philippe qui va lancer son nouveau parti de la droite et du centre le 9 octobre prochain.
Exactement. Si Edouard veut la guerre, il l'aura.
C'est vrai que vous pourriez vous retrouver avec un sérieux concurrent au centre.
C'est pourquoi j'ai demandé à Emmanuel Macron de fusionner LREM et mon MoDem en une seule grande formation.
C'est un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Vous avez déjà pensé à donner un nom à ce nouveau parti ?
Je vais ressusciter une idée ancienne. Je vais l'appeler tout simplement le Parti démocrate, le PD.
Oui.
Vous vous souvenez de mon PD ?
Oh oui, je m'en souviens.
Bien, oui.
Ça n'avait pas vraiment fait l'unanimité, non, d'ailleurs.
À l'époque, la France n'était pas prête pour se faire prendre par mon PD.
Oui, bien sûr.
Mais désormais, mon PD est élargi au centre. Et j'invite tous les Français à se mettre tous derrière mon grand PD.
Bien. Francis Cabrel vient de tourner une vidéo pour trouver un médecin pour son village d'Astafort. Nous sommes heureux de relayer son appel. Bonjour Francis.
Bonjour mademoiselle Jade. En effet, les médecins s'installent dans toutes les grandes villes. Mais un village sans médecin, c'est comme une guitare sans corde ou une veste sans din sans frange.
Si les médecins s'installent en ville, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de travail dans les villages.
Et trompez-vous. Il y a beaucoup de maladies à soigner à Astafort. Il y a les rhumatismes de madame Chamoulot.
Ah.
L'arthrose de Madame Gomez, la cirrhose du vieux Léon, sans oublier la prostate du père Basile qui dort tellement, parce qu'il se lève toutes les deux heures pour aller faire pipi.
Ah ben oui, en effet, oui, il y a des soucis.
Oui, il y a aussi des problèmes digestifs de la mère Poupa, qui passe la moitié de ses journées assise dans la cabane au fond du jardin. Mmh. Et les MST qui ont rattrapé Jojo et Bébert dans la camionnette de la grosse Rita garée sur la D931 en direction d'Agen.
De quoi constituer une jolie patientèle pour un médecin, si je comprends bien.
Je ne parle même pas des gens qui attendent qu'on leur prescrive du paracétamol pour faire chuter la fièvre qui chauffe sur leur front, comme le soleil sur les cailloux, sur les chemins d'Astafort, parce qu'ils ont refusé qu'on leur injecte le vaccin des technocrates de Paris qui transforme le corps en antenne 5G.
Ouh, et vous, Francis, vous allez bien ?
Non.
Non.
J'ai des corps aux pieds à cause de mes Santiago. Ça fait tellement, tellement mal. Alors s'il te plaît, le médecin, dépêche-toi.
Tiens, bonjour Fabrice Lucchini.
Ah Fabrice.
Quel bon vent vous amène, Fabrice.
Ce que j'aime bien avec toi, la Jade, c'est que t'es l'inverse d'une atrabilaire.
Oui. C'est vrai.
Quel bon vent vous amène, c'est énorme.
Ben quoi ?
C'est pas du tout Cioran, hein, l'immense Cioran qui disait « Ce n'est pas la peine de se tuer puisqu'on se tue toujours trop tard. »
Ouais, ouais.
Non, toi, ce qui est bien, c'est que t'es positive. Tu adhères au projet de vie.
Oui, j'essaye, Fabrice, oui.
Hier, tu as dû faire ta marche nordique tout sourire dans le bois de Boulogne avec ton chien Bibi, la truffe humide et conquérante. Je parle du yinche, hein, pas de toi.
Oui, alors jamais avec Bibi, j'ai peur de l'empaler.
Ah. Ce matin, t'as fait ton salut au soleil, prête à ouvrir tes bras à une journée pleine de promesses, comme on dit dans le livre de développement personnel.
Ouais.
Et patatras, pas de bol, tu tombes sur Wham.
Oui.
Grand névrosé totalement dépressif, qui a les patates au fond du filet, en bout de piste.
Oui, je suis habitué à vous, Fabrice. Vous avez retrouvé le public au Bouffe Parisien avec vos deux spectacles, vous devriez être heureux.
Céline a dit, pas Céline Dion, hein, non,
ouais,
Louis Ferdinand
oui.
Céline.
Oui.
Il a dit, être seul, c'est s'entraîner à la mort.
Mmh.
Alors c'est vrai qu'après un an de confinement, ça me fait du bien de voir des gens.
Bon. Et puis vous fréquentez à nouveau les plateaux télévisés, comme celui de C'est à vous. Vous avez dit que François Hollande, malgré son physique étonnant, était une incarnation sexuelle.
Non !
Ah bah quand on parle du loup, bonjour François Hollande.
J'aime beaucoup Fabrice, mais j'ai l'impression qu'il se moque de moi.
Oh.
Tu vois la Jade Le Hollande, c'est mieux qu'un Valium, c'est l'antidépresseur absolu. Le mec, avec son physique de chef de rayon à Bricorama, a réussi à grimper des bebons comme Trierweiler et Gaillet. Hollande, c'est un espoir pour tous les moches. Non, je ne suis pas qu'un corps, certes sublime et désirable, je suis aussi une intelligence remarquable qui a gouverné la France. Tu vois la Jade, Hollande c'est aussi un espoir pour tous les cons qui vont se représenter en 2022. Genre,
je dis, vois,
les gars,
oui.
C'est possible, vous allez y arriver.
C'est l'événement cinématographique de la rentrée, le très attendu nouveau James Bond sort ce mercredi sur plus de 1000 écrans. Bonjour Dominique Besnéard.
Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi. Vous n'auriez pas de l'aspirine par hasard?
Vous avez une petite migraine?
M'en parlais pas hier soir, j'ai vu le nouveau James Bond.
Oui.
Ça m'a donné aussi mal à la tête qu'un film français. Une catastrophe. James Bond passe son temps à nous bassiner avec ses problèmes de couple et ses angoisses existentielles. Ah, oh, c'est pas facile à dire.
Oui.
En plus, on apprend qu'il a été remplacé par une 007 noire. C'est sûrement ce qu'on appelle le grand remplacement.
Ça dure pas longtemps. J'exagérais, j'ai bien aimé, moi.
C'est tellement tarabiscoté qu'on se demande si le méchant va pas se mettre tout à coup à chanter des fadaises sur une musique d'Alex Beaupin comme dans un film de Christophe Honoré.
Je comprends. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas été convaincus par ce nouvel épisode plus psychologique.
Psychologique. Voilà.
Psychologique.
C'est vrai que j'ai la nostalgie de la série des James Bond virils qui buvaient des vodka martini au shaker, pas à la cuillère, à la cuillère, pas au shaker.
Oui, attention.
Et qui luttaient contre le spectre avec ses cigares lance-missiles et ses boutons de manchette à rayon laser. Et à la grande époque, les James Bond girls, elles étaient déjà pour la parité, mais pour la parité, beaucoup belle gueule.
Oui.
En tout cas, c'était pas la peine de prendre Daniel Craig et Lachey Doux pour sauver l'opus. Hein. Romain Duris et Corinne Maziero auraient été moins chers. Hein. Non, mais je dis ça, je dis rien. Hein.
Qui dit nouveau James Bond dit aussi nouvelle chanson de générique. Bonjour Philippe Manœuvre. Vous semblez bien accablé.
Yes, Miss Jade. Sous mes Ray-Ban à la James Bond, mes yeux sont aussi rouges que si j'avais la myxomatose. Totally red. Et tu verrais, mes oreilles, elles saignent dans mes écouteurs.
Ah, je vais pas voir ça. Vous n'avez donc pas aimé le nouveau générique du nouveau James Bond ?
No way ! Pour succéder à Shirley Bassey, Tina Turner, The Wings et Paul McCartney, ils ont pris Billie Eilish. Une starlette américaine qui s'habille en camionneuse comme Christine and the Queen. Bullshit, mais il y a pire, Miss Jade. Dans la BO, ils ont mis du Dalida.
C'est vrai que la chanson de Dalida dans La ville endormie accompagne l'une des scènes du film.
Au secours, du Dalida dans un James Bond. Pourquoi pas du Dev dans Star Wars? Ah, du Demis Rousseau dans un Boulard ou du Sheila dans un Rambo. They are fucking crazy. En tant que plus vieil ado du monde, fan absolu de John Barry qui créa le générique original de 1962 pour Dr. No, j'ai envie de crier « Touchez pas James, stop in the name of Bond !»
Bon, du calme, Philippe Manœuvre, la prochaine bande originale de James Bond sera peut-être plus à votre goût que celle de No Time to Die.
Nos futurs, Sister Jade. J'ai envie de mourir. It's time to die.
Merci beaucoup à toute l'équipe. It's time to die. Bah non, on va.
Oh non, non, non.
Là, je compte sur vous quand même. Hein. On se reprend un peu en main.
On aime trop la vie.
Voilà, nous sommes tout à fait d'accord. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site RTL.fr et à demain matin.
À demain.
Vous savez que ça va être formidable. Dans un instant, on va avoir un bon gratin de pâtes qui va nous être préparé par Cyril Lignac. Recette en quelques points, extrêmement facile et très efficace.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Cyril.
Bonjour.
Un grand classique aujourd'hui, c'est Chloé. Elle vit à Clamart, donc 92, Hauts-de-Seine. Elle voudrait connaître vos astuces pour réaliser un, je cite, un délicieux gratin de pâtes.
Alors ça, j'adore.
Ah oui.
Déjà parce qu'il y a de la béchamel, de la crème et du fromage.
Oui.
Alors, dans la poêle, on met, enfin la poêle ou dans une casserole, on met 20 g de beurre, on fait fondre et on ajoute 20 g de farine que l'on mélange au fouet et là on le cuit pour le torréfier. Parce qu'il y a une petite astuce dans la béchamel, pour pas que ça sente la farine, il faut bien cuire la farine avec le beurre. Et dès qu'on va ajouter le 2 ml de lait pour cuire la béchamel, eh ben, on n'a plus de goût de farine. On ajoute du sel, du poivre, et on met de côté. Ensuite, j'ajoute toujours un petit peu de moutarde, une demi-cuillère à café de moutarde. Mm-hmm. J'ajoute du fromage, alors Comté, Beaufort, Gruyère Suisse, pour faire plaisir, merci. M. Calvi.
Merci.
Et là, on mélange tout ça. J'aime bien ce plat quand on a des restes de pâtes. C'est-à-dire qu'à la maison, souvent, on a des restes, on ne sait pas quoi en faire.
Ah
bon, donc quand il reste...
Moi, je n'ai pas de restes.
Mais parfois, on fait des pâtes. Et finalement, il nous
c'est
en reste
trop. C'est la différence
entre
vous et moi.
Il vous en reste trop. Et bien, à ce moment-là, on les garde et on les mélange à la béchamel. On ajoute des petits champignons de Paris, de la pancetta. On met au four un petit peu de chapelure. Et on fait gratiner.
Formidable.
Bien croustillant. Mmh. Alors, la chaleur, on n'est pas obligé de mettre de la viande. Hein. Moi, j'ai mis un peu de lardon parce que ça donne du coup. Et on n'est pas obligé. On peut faire pour les enfants un gratin de macaroni au fromage.
Mais c'était très sympathique. Vous savez, on peut aussi tout simplement faire cuire des macaronis pour faire directement son gratin.
Aussi.
On n'est pas obligé de les restes.
Moi, je suis avironné. Je n'aime pas comment geste. Mais
vous avez tout à fait raison. Merci Cyril. Rendez-vous sur RTL.fr. Vous qui nous écoutez et sur l'application mobile d'RTL pour poser toutes vos questions à notre Cyril national.
RTL.
RTL, revivre ensemble.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point de l'actualité, Dominique Tenza.
Le pape François exprime son immense chagrin après les révélations des abus sexuels au sein de l'Église de France. Le souverain pontife qui appelle au pardon et à la rédemption. Selon l'étude révélée hier, depuis 1950, jusqu'à 330 000 enfants, essentiellement de jeunes garçons adolescents, ont été victimes de religieux ou de laïcs exerçant dans des institutions catholiques. L'Assemblée nationale unanime pour condamner une nouvelle fois cette nuit les pseudo-thérapies de conversion, ces pratiques qui visent à imposer l'homosexualité à des gays ou des lesbiennes à travers parfois des séances d'exorcisme. Les soi-disant médecins thérapeutes risquent avec le nouveau texte désormais jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le tacle de Bruno Le Maire sur RTL ce matin après la proposition d'Anne Hidalgo de baisser les taxes sur le carburant. Le ministre de l'économie qui dénonce l'incohérence de la candidate socialiste qui jusqu'ici s'était plutôt illustrée à Paris avec une politique anti-voiture. On ne peut pas à la fois soutenir la transition écologique et subventionner les énergies fossiles, estime Bruno Le Maire. Emmanuel Macron a reçu hier le secrétaire d'État Anthony Blinken dans une ambiance studieuse, précise l'Élysée, mais sans effusion. Quelques jours après la crise inédite née du conflit à propos du contrat sur les sous-marins australiens, les deux présidents, Macron et Biden, devraient annoncer à la fin du mois des décisions concrètes qui permettront de sceller définitivement la réconciliation. Et puis un décor de cinéma plus vrai que nature. Pour la première fois, le tournage d'un film va démarrer dans l'espace. Pas besoin d'effets spéciaux. Une actrice et un réalisateur russe sont arrivés à bord de la Station Spatiale Internationale. Il devrait y rester une douzaine de jours.
Merci beaucoup Dominique Tenza.